Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction, un podcast consacré à l'actualité de la semaine qui vient de s'écouler, comme à chaque fois. Et cette semaine, avec moi, pour parler de cette actualité brûlante, il y a quelqu'un tout aussi caliente, qui est Thomas.
Évidemment. Hello.
Il y a Romain.
Hi.
Qui est chaud comme la braise lui aussi. Et bah, quand je dis chaud comme la braise, je regarde Johnny One et là forcément
la définition même de braise. Ah, oui.
Bah, j'ai fondu au passage, tu vois, là je suis de la lave en fusion, voilà. Johnny One est de la lave en fusion juste à côté de moi.
Et MC Pouf Master en régie.
Et oui, MC
Pouf Master, de l'extrême.
L'homme qui dansait mieux que n'importe qui dans cette rédaction. Vous aurez peut-être un jour une explication pour cette anecdote que nous ne vous expliquerons pas tout de suite. L'actualité de la semaine, jeunes gens, eh bien ça concerne d'abord Soul Calibur 6 qui est sorti ce 19 octobre. Johnny One y a joué, le test est disponible sur Gameblog. On va vous en parler pour savoir si la légende est de retour. Le thème numéro 2 de ce podcast, c'est la Neo Geo Mini. Est-ce qu'il faut craquer pour cette version miniaturisée de la Rolls des consoles, celle qu'on appelait la Rolls des consoles, qui du coup maintenant ressemble un peu à une Skoda des consoles?
On verra. Le dire avec autant de dédain.
On verra.
La Neo Geo
tout à l'heure
était la Rolls des consoles.
Oui, oui, mais là, c'est, je faisais plus allusion à ce qu'on a là sous les yeux, en fait.
La Dacia
la, bon, bref. On en parlera évidemment avec Thomas qui a pu l'essayer en long, en large et en travers, et on finira avec, non pas un jeu de catch, mais deux jeux de catch.
Oh,
et oui, Romain est gâté cette année, puisque nous avons WWE.
WWE
SmackDown
2K19.
Ah oui, bah, pourquoi
plus SmackDown, c'est plus,
oh, mais je suis complètement largué, moi, tu sais, là, je suis encore dans les années 2000. Et Fire Pro Wrestling qui sont World qui viennent de sortir presque le même jour.
Ouais, même pas, moins d'un mois d'écart. Et si on m'avait dit un jour que je ferais un thème sur les jeux de catch dans le podcast, je ne l'aurais pas cru.
Et bien voilà, il arrive pour tout à l'heure, ce sera le troisième thème, pour savoir lequel de ces deux jeux de catch il faut adopter, et pourquoi pas les deux. Romain nous dira tout ça, mais avant ça, comme chaque semaine, et avant aussi, évidemment, vous le savez, nos rubriques habituelles, comme les 10 ans, il y a 10 ans sur Gameblog et l'anniversaire, bien nous passons par la case win et fail, et une fois n'est pas coutume, le win, bah c'est moi qui m'en occupe. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai envie de me faire un petit plaisir. Il y a une annonce qui a été faite du côté de chez Hitman 2 qui m'a fait beaucoup rire et qui fera, je pense, a fait aussi beaucoup rire les cinéphiles, puisque Hitman 2 va accueillir à partir du 20 novembre sa première cible fugitive. Alors les cibles fugitives ou éphémères, comme on les appelait dans Hitman 1, ce sont ces cibles pour lesquelles vous aurez un délai particulier, à savoir là une dizaine de jours, pendant lesquels vous devrez en un seul essai essayer de tuer une cible qui se balade sur la map. Et alors dans la première saison de Hitman, dans le premier jeu, on va dire le précédent, il y avait un acteur qui s'appelait Gary Busey, qui est très connu, qui a joué notamment dans L'Arme Fatale, qui était invité pour être une des cibles. Et bien là, je vous demande qui est l'invité.
Qui c'est,
hein?
Et bien, qui c'est qu'il faut voter pour?
Et bien vous le voyez si vous êtes premium, c'est Sean Bean, rien de moins que l'homme qui meurt le plus souvent, ou on croit qu'il meurt le plus souvent dans les films et les séries télévisées. Il y a environ 25 morts qui sont répertoriées quand même, pour lui, et je suis sûr qu'ils n'ont même pas compté une des dernières séries dans lesquelles il joue. Sean Bean donc, qui va jouer un personnage qu'il faudra assassiner, la cible fugitive qui s'appelle Le Revenant, parce que son personnage qu'il présente à travers le trailer qui a été diffusé il y a quelques jours est un personnage qui est habitué à faire croire qu'il va mourir. Ce qui est quand même très drôle quand on sait justement que cet acteur en question est habitué à jouer la mort en direct quand il est filmé. Et il fait une référence aussi à un moment qui m'a fait beaucoup rire, où il dit « Ah, j'ai même fait croire une fois que j'étais mort dans une explosion », référence à... Messieurs, mesdames,
GoldenEye,
absolument, Johnny One.
C'est pas vraiment une explosion, c'est un satellite. C'est un satellite qui se crache sur lui. Oui, c'est lui 006.
Au début.
Il fait croire qu'il fait péter justement dans la base de Facility, tu sais.
Et
il fait croire qu'Orumov aussi lui tire une balle dans la tête. En tout cas, j'ai pas vu le film, mais c'est ce que je retiens du jeu. Et finalement, tu le retrouveras après.
Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que Boris est bien invincible. Ça, c'est le plus important.
Donc voilà. C'est un truc très clin d'œil, c'est très méta.
C'est totalement méta et c'est tellement.
C'est génial.
Enfin, c'est très surprenant que Hitman ait réussi à s'offrir les services de cet acteur qui encore aujourd'hui est quand même.
C'est Warner derrière.
Ouais, c'est sûr, mais tout de même.
Ouais.
tout de même, il fallait réussir à le faire venir, et il fallait réussir à le faire venir à la Paris Games Week, parce qu'il sera sur le stand PlayStation ce vendredi 26 entre 16h et 17h. Et oui, messieurs, dames, donc si vous voulez aller le voir, comme Eve qui va faire la queue.
Va-t-il mourir sur le stand PlayStation?
Comme Eve qui va faire la queue, n'hésitez pas. En tout cas, moi je me ferai un plaisir d'essayer de l'assassiner quand il sera disponible dans Hitman 2 le 20 novembre. Voilà.
Je me ferai un plaisir de l'assassiner. Tiens, sur le stand de la Paris Games Week.
Oui, patronçonneuse et tout.
Et donc, moi, juste pour terminer là-dessus, donc, ce que tu nous disais, ta stat, comme quoi c'était l'acteur qui mourait le plus. Et non, c'est pas lui.
Ah, alors c'est qui?
C'est Kim Coates.
Kim Coates, mais c'est qui?
Kim Coates. Alors Kim Coates,
c'est qui?
Bah, justement, il croise le chemin de Sean Bean. Attends, regarde.
Sean Bean,
si t'as déjà vu sa tête. Sean Bean.
On l'appelle Sean Bean.
Mais oui, je vois qui c'est. Mais
oui, tu vois très bien qui c'est. Kim Coates, par exemple, c'est le flic dans Silent Hill. Je sais pas si Poufy pourra nous trouver une petite image de Kim Coates. Ouais, pour montrer à l'écran.
Mais je vois très bien
qui c'est. En fait, c'est lui. Lui, il a un plus gros taux de mort par rôle que Sean Bean. Ouais.
Bah écoute, il faut voilà.
Merci, professeur Roland. Ouais,
ça fait très plaisir de savoir. Mais moi, pour moi, Sean Bean reste l'homme qui meurt le plus souvent. À vie. On va passer au fail maintenant de la semaine. Le fail, ça concerne une communication. On va dire
maladroite à la base,
plus que maladroite,
désastreuse ensuite,
oui. Surtout désastreuse,
et difficile à rattraper. Juste après, ça concerne Dan Houser, le cofondateur de Rockstar et scénariste de Red Dead Redemption 2, qui s'est vu interviewé il y a pas très longtemps. L'interview a fait des étincelles.
On pourrait dire même scénariste de génie, un peu en tout cas dans le domaine du jeu vidéo.
Dans les GTA, le premier Red Dead,
Max Payne 3,
Bully, je crois. Ouais. Enfin,
et donc oui, il a accordé initialement une interview à un média américain dans laquelle il glisse qu'à un moment donné du développement de Red Dead Redemption 2, ça donnait des semaines de travail de 100 heures. Ce qui fait que quand vous calculez 100 heures de travail dans une semaine, ça veut plus ou moins dire que vous avez travaillé plus de 4 jours entiers sur cette semaine qui est composée, comme vous le savez, de 7 jours. C'est quand même plutôt costaud. Alors évidemment, ça a fait réagir le monde entier dans les 24 heures qui ont suivi. Il est revenu là-dessus rapidement pour clarifier ses propos en disant qu'en fait, il n'attendait pas de qui que ce soit au sein de la boîte de travailler dur. Parce que c'est ça, en fait, c'était limite un petit reproche caché. Il n'attendait de personne qu'il travaille dur. Mm-hmm. Plutôt que de dire on attend de personne qu'il travaille 100 heures.
Mais auparavant,
il a précisé voilà. Qu'en fait, ces 100 heures en fait, correspondaient à un moment où lui et les autres scénaristes se sont totalement enfermés, on va dire, ils se sont mis à l'écart pour bosser sur le scénario et sur les dialogues de Red Dead Redemption 2 avec Laszlo, par exemple. Laszlo, qui était un DJ dans les vieux GTA, ouais. Mais qui écrit les scénarios, les dialogues des différentes émissions de radio, etc., et même des dialogues tout court dans les jeux Rockstar depuis des années. Évidemment, cette réponse, cette précision de Dan Houser n'a pas calmé les choses, bien au contraire. Sur Twitter, dans la foulée, de nombreux anciens employés de Rockstar ont parlé de conditions de travail absolument dramatiques, aussi bien en termes d'heures que de traitement de la part du management. Il y a un cas en particulier qui m'a marqué, c'est chez Team Bondi, donc le studio qui avait développé Elle est Noire. La nana expliquait que les heures de travail étaient telles et que le moral et justement l'efficacité étaient en berne à force chez Team Bondi. Et donc, elle avait pris pour habitude, dans son temps personnel, de préparer des gâteaux et de les amener au bureau. Et une fois par semaine, je crois, ils se prenaient une demi-heure pour discuter ensemble et manger ces gâteaux. Et bah, visiblement, ça gênait la direction et il a fallu qu'elle arrête.
Ça fait une demi-heure improductive à chaque fois.
Qu'elle arrête de faire ça. Et il y a eu plein d'autres cas différents. Mm-hmm. Et donc, ça, c'était qu'une partie de l'affaire. D'ailleurs, il y a une autre employée qui, elle aussi, a témoigné et qui, elle, s'est tellement faite pourrir par les fanboys de Rockstar qu'elle a carrément passé son compte en privé.
C'est celle qui avait répondu qu'elle faisait 80 heures par semaine et qui finissait son tweet en disant fuck you very much, non? C'est pas celle-là?
Oui, je pense que c'était elle. Ouais. Et donc, dans la foulée, gros changement du côté de chez Rockstar. En fait, ils ont ouvert les vannes parce qu'on sait que Rockstar, c'est une société qui est très, très, très secrète. On ne sait pas comment les choses se passent là-bas. Les employés n'ont pas le droit de parler à la presse, etc., ou parler même sur les réseaux sociaux. Et bien, des suites de ça, Rockstar a donné l'autorisation à ses employés d'expliquer les choses telles qu'elles sont réellement. Et donc là, on a eu une série de messages comme quoi non, on m'a jamais demandé de travailler plus de 50 heures. Les quelques fois où j'ai travaillé le week-end, c'était de mon plein gré. On m'a peut-être demandé une fois ou deux de travailler un week-end. Enfin bref, j'ai jamais été aussi bien dans une société que chez Rockstar. Donc là, on a eu un son de cloche totalement différent. Je pense que la vérité se trouve quelque part entre ces deux, parce que si Rockstar ouvre les vannes de la communication à ce niveau-là,
c'est pour la maîtriser.
C'est évidemment maîtriser, et c'est évidemment des gens qui ont le message que Rockstar veut transmettre. Donc s'il y a quelqu'un qui est pas content, ils vont pas le laisser s'exprimer à ce sujet-là. Donc je pense qu'ils ont dû leur dire, si vous avez un message positif à transmettre, eh ben allez-y. Et faut aussi savoir que quand tu es employé d'une société, et bah tu dis pas forcément ce que tu veux au moment où tu le veux.
Si tu veux garder ton
absolument.
Boulot, en tout cas, oui.
C'est pas Mélenchon aussi qui fait des semaines de 100 heures là, non? Il a pas sorti un truc comme ça?
Ah, je crois que lui, il fait des semaines où il parle aux gens à 5 cm de leur visage en disant qu'il est la République
et en hurlant.
C'est ce moment-là, je crois, qu'il lui dit je fais des semaines de 100 heures.
Donc on n'a pas la vérité ultime sur cette affaire, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'y est pas et on n'a pas tous les
données. De toute façon, c'est tout ce que la société actuelle fait, qu'il y a des gens qui vont peut-être se sentir plus investis, qui vont peut-être bosser plus, que d'autres auront peut-être un gun sur la tempe, à qui on dira non mais là vieux, ton délai tu dois le respecter, tu vas bosser 70 heures et c'est comme ça.
Toujours est-il,
et on sait jamais
si
ça vient du management tout en haut, si ça vient d'un sous-manager, c'est toujours difficile.
Je me souviens bien du tweet de la femme qui a mis son compte en privé. Elle expliquait à un moment qu'on lui avait dit texto de venir le samedi et le dimanche tout le temps, au cas où Dan ou Sam Hauser viendrait ce jour-là ne voulait pas que Sam et Dan aient l'impression que ses employés travaillaient moins qu'eux. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument
c'est gravissime comme management.
Mais il n'empêche, même si on n'a pas donc la vérité ultime sur ce sujet, il n'empêche que le crunch dans le jeu vidéo est un problème bien réel, que ce soit chez Rockstar ou ailleurs. Il n'empêche aussi qu'il y avait déjà eu des problèmes de ce genre déclarés chez Rockstar sur leur de plus anciens
Red Dead Redemption 1 en 2010, où les épouses des développeurs de Rockstar San Diego avaient carrément écrit une lettre à Rockstar pour leur dire qu'elles supportaient plus que leur conjoint soit absent le samedi, le dimanche, voilà. Pour finir le jeu, quoi.
Voilà aussi, parce qu'il faut garder à l'esprit que quand tu commences, enfin quand tu as une carrière et ça marche aussi bien dans un studio de développement que dans n'importe quel autre type de boîte, finalement tes priorités et ton rythme de vie n'est pas le même quand t'as 25 ans que quand t'en as 35, et que t'es marié et que t'as des enfants, etc. Peut-être qu'en début de ta carrière, quand t'es jeune, t'as moins d'attaches, t'en veux plus, tu débutes, t'as la dalle, etc. Donc peut-être que là, oui, tu es prêt à passer des journées de 17 heures au bureau et d'enchaîner sur des nuits blanches, etc.
C'est un ressort facile pour justement le management de te pousser. Tu peux avoir aussi des envies de t'éclater quand t'as 25 ans
sûr.
De profiter de la vie et de la mordre à pleine dent.
Bien sûr, mais il y a aussi des gens, une fois après arriver à un certain moment, où justement tu veux pouvoir profiter de ta vie de famille. D'ailleurs, des suites de cette histoire, il y a beaucoup d'acteurs du jeu vidéo qui ne travaillent pas chez Rockstar, y compris des grands noms qui sont intervenus sur le sujet pour dire que ces pratiques devaient cesser. Et j'ai un cas bien précis en tête, c'est celui d'Adam Boys. Adam Boys, ancien PlayStation, si vous voulez resituer le personnage, pendant la conf 3 2015 de Sony, c'est lui qui annonce FF7 Remake, c'est lui qui annonce Shenmue 3, c'est lui le grand blond. Un grand blond. Non, mais c'était quelqu'un qui était très présent sur les conférences Sony, par exemple. Et lui, il expliquait qu'au début de sa carrière, il s'est lui-même rendu coupable de s'infliger ça à lui-même. Genre de rester au bureau des journées entières et d'enchaîner les heures et les heures et les heures parce qu'il avait l'impression que c'était ce qu'il fallait faire et que c'était comme ça que tu travaillais bien, en fait. Et il dit que plus jamais il ne referait ça, et que maintenant il a qu'une envie, il a qu'un objectif dans sa journée, c'est d'être le soir chez lui pour dîner avec sa femme et ses enfants, et pour pas rater ce genre de moment.
Après, il a peut-être engrangé suffisamment de pognon pour pouvoir se le permettre aussi.
Oui, bien sûr. Mais techniquement, techniquement, tu devrais pas avoir à travailler autant pour t'en sortir. C'est pas comme
absolument.
Ça que
après,
ça fonctionne.
Après, on ne connaît pas non plus les conditions des personnes qui font des heures supplémentaires chez Rockstar, s'ils ont des compensations en termes de salaire, s'ils ont des récupérations. En fait, on ne sait rien. C'est ça le problème.
Parmi les employés qui, eux, ont pris la défense de Rockstar, certains expliquaient que, voilà, de tant d'heures supplémentaires à tant d'heures supplémentaires, vous êtes payé 1,5 fois plus. Après 8 heures d'heures supplémentaires par semaine, je dis peut-être pas le bon chiffre, hein. Tu passais à deux fois le salaire normal.
Ouais, ouais.
Et ça augmentait comme ça. Donc, après, Rockstar, c'est une boîte qui est vraiment très grande. Il y a plein de studios, il y a plein de, comment dire, de divisions, etc. Et comme le dit Plumeau, peut-être que dans certaines divisions, tu vas avoir un manager qui est un torsionnaire, et dans d'autres, un mec qui est un peu plus sensé. Enfin,
c'est difficile
là encore,
de savoir.
On peut pas savoir. Mais il n'empêche une fois encore que le crunch, c'est un vrai problème dans le jeu vidéo. Et
on en parle de plus en plus. Et justement, ça va peut-être avancer un petit peu les mentalités.
En fait, c'est toujours cyclique, je trouve. Tu sais, t'as des moments où ça va être sur toutes les lèvres, ça va retomber. Et quand il va y avoir un autre gros jeu, un peu comme Red Dead, bah, ça va remonter ensuite. Et voilà.
En
après, il y a des gens qui étaient. Une dernière chose, il y a quelqu'un, quand j'en parlais sur Twitter, qui est venu me dire oui, bah, moi, je suis dans un métier créatif et c'est pareil, je compte pas mes heures, etc. Mais il y a une différence entre une petite start-up qui essaye de se lancer.
Ou même quelqu'un qui a son compte.
Oui, quelqu'un qui a son compte, une start-up, quelqu'un qui essaye de se lancer, qui se la donne, etc. Et une boîte comme Rockstar qui met des centaines de millions de dollars de budget dans la création de chacun de ses jeux. Et donc qui a largement les moyens de se staffer ou de faire en sorte que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Et après, à titre personnel, je suis pas certain que travailler 100 heures par semaine, c'est à ce moment-là que t'es le plus efficace et que t'as les meilleures idées. Je pense que quand t'es au bout du rouleau, c'est pas là où ton cerveau fonctionne le mieux.
Non, mais bon. Je vous confirme.
Et du coup, il faut du temps pour rattraper tes conneries après, en plus.
Oui, voilà.
On en parlera.
Je ne vise personne.
On en parlera bientôt. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que Red Dead Redemption 2, qui sort ce vendredi 26 octobre, quelle que soit sa qualité, ça ne mérite pas que des employés soient exploités plus que de raison, c'est certain. On va pas prendre la défense.
Rien ne le justifie, tout simplement.
Rien ne le justifie, absolument. Donc ce serait dommage que ce soit vraiment le cas pour tous. Et à mon avis, c'est pas le cas pour tous, heureusement. On va passer à un autre fail. Pour toi, Thomas,
plus léger.
Parce que toi, il t'a fait beaucoup plus.
C'est hallucinant, mine de rien. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant.
Oui, c'est complètement con.
C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours et décidément la poisse colle aux semelles de ce pauvre Swery, puisque après avoir malheureusement raté la première campagne de financement participatif pour The Good Life, voilà que Swery sort son nouveau jeu, The Missing, qui est sorti la semaine dernière. Et le lancement d'un jeu, c'est le moment où on en parle, les reviews arrivent, etc. C'est là où vous mettez le paquet sur la communication. Le problème pour Swery, c'est qu'il s'est rapidement rendu compte que les différents distributeurs avaient passer le jeu à la moulinette de la traduction automatique, en fait, sur le PlayStation Network. Ce qui fait que, par exemple, en français, hein, dans la belle langue de Molière,
le
jeu devient le manquant.
Parce que le premier problème, c'est qu'en fait, il s'est d'abord rendu compte que son jeu était introuvable sur les stores.
Voilà, ce qui fait que la semaine de lancement, même le jour de lancement, là où vous avez tous les projecteurs braqués sur vous, votre jeu devient introuvable, puisque si vous cherchiez The Missing dans l'outil de recherche du PlayStation Network, eh bien,
il était manquant.
Vous ne trouviez pas le jeu de Swery, qui était donc manquant, et ça ne vaut pas évidemment que pour notre beau pays, puisque dans pas mal de langues...
La faltada en espagnol.
Exactement, la falta, il mancante.
La falta, pardon, la falta, c'est vrai.
Il mancante, il a fait quelques tweets, en fait, pour faire part de sa grande tristesse avec le hashtag SadSwery. Non, mais vraiment. Et il a beaucoup,
vieux, ouais.
beaucoup insisté sur le fait que son jeu était malheureusement introuvable sur la plupart des stores en Europe et en Amérique du Sud. Et du coup, c'est bien dommage pour lui parce que généralement, quand tu loupes ta fenêtre de lancement après pour te rattraper derrière, c'est quand même
un petit peu compliqué.
Voilà. Donc, désolé pour toi, mon pauvre Swery. Mais du coup, vous êtes au courant. Si jamais vous cherchez son jeu, il faut chercher pour l'instant le manquant.
Et au Japon,
sur le
PSN. Au Japon, il était sous quel nom?
Alors, je ne sais pas, parce que dans la série de tweets qu'il a fait, il a surtout insisté sur les langues latines et
les
toutes les déclinaisons,
les Allemands,
espagnol,
les
italien, etc. Oui, on l'avait en espagnol aussi. Mais voilà, ça nous fait sourire, mais c'est quand même dramatique pour lui.
Ça s'invente pas en plus un truc comme ça. Je trouve ça grotesque. Vraiment.
Et c'est la fou. Responsabilité, hein, on revient bien à l'éditeur qui,
ah oui.
qui
Artistem Works.
Ouais, Artistem. Ouais. En tout cas, c'est lui qui l'a. Enfin, c'est eux qui l'a pointé du doigt également sur Twitter en disant que.
Mais il a pas dit de nom.
Il a nommé Arxis. Hein. Il les a vraiment nommés explicitement en disant que c'était leur faute si le titre entier avait été passé à la moulinette de Google Trad.
Ah, voilà. Les cons.
T'imagines un genre un BlazBlue. Central Fiction traduit en français, non, ça ferait la même chose en fait. Central Fiction,
le nom bleu.
La fiction centrale.
Ouais.
On a Kenist qui s'amuse ouais. souvent à faire des traductions un peu débiles comme ça sur Discord.
J'espère qu'on pourra l'avoir en test, celui-là.
Bah, vas-y, hein.
Ouais, moi, on n'a pas le.
C'est pas grave.
Il est manquant, tu veux dire ?
Ouais, il est manquant pour l'instant.
Non, vas-y,
mais quand il y sera, j'espère, ouais.
Ok. Bah, quand tu veux.
Ouais, grave.
On va passer à la petite rubrique. Hebdomadaire qui fait plaisir à chaque fois aux plus nostalgiques d'entre vous. Jingle. Ça répond bien, hein. Franchement, je me souvenais pas que ça répondait aussi bien.
Tu sais, ce qui serait marrant, c'est qu'un jour où on fait pas le podcast en direct, comme ça, on lance jingle il y a 10 ans sur Gameblog, et quand le truc revient, c'est plus nous. Tu sais, c'est genre Julo, Traz, Raon.
Ça pourrait être rigolo, ça.
Des anciens de l'équipe.
On leur proposera évidemment. Il y a 10 ans sur Gameblog, c'est Thomas qui va nous raconter les petites news qui faisaient. Le buzz à l'époque,
l'actualité
en 2008, dans une semaine d'octobre, de fin octobre 2008. Qu'est-ce qu'il y avait de beau, mon cher Thomas ? J'ai vu qu'il y avait du GTA 4.
Exactement.
Sur du Rockstar.
Pour faire écho à la sortie imminente de Red Dead Redemption 2.
Je ne dirai pas ce qu'il y a écrit sur mon.
Non, tu ne le dis.
Sur mon papa. Non, tu ne le diras pas.
Et effectivement, il y a 10 ans, c'était GTA 4 qui cartonnait au Japon, non pas dans les charts, puisqu'il était encore trop tôt pour en parler, mais dans le vénérable magazine Famitsu, puisque vous voyez la couverture de l'époque, le jeu récoltait un magnifique 39 sur 40. Du jamais vu, nous dit Julo, alors qu'en fait si. Hein.
Pour un jeu occidental.
Il y en avait déjà eu plein.
Oui, il y en avait eu des 39
puis
sur 40.
C'est un peu une blague les tests Famitsu en plus.
39 sur 40 occidentaux.
Je ne sais pas. Julo nous dit du jamais vu à l'époque. Comme je ne l'estime pas aussi visionnaire que ce cher Traz, je me permets d'émettre un doute, évidemment. Bref, voilà qui fait écho à une autre grosse sortie de cette semaine chez Rockstar.
Ouais, on saura. Je ne sais pas si Famitsu a déjà donné sa note ou pas d'ailleurs.
Je pense que ça aurait popé, on ne l'a pas vu pour l'instant. Mais,
le truc, c'est que les. Cette news-là, elle est particulièrement marquante, c'est que pendant longtemps, on avait pour idée que les jeux occidentaux ne pouvaient pas plaire au Japon, ne marchaient pas aussi bien par leur thématique que par leur gameplay.
Exact.
Et la licence GTA fait partie de celles qui ont toujours réussi à trouver leur public au Japon, grâce à Capcom en partie. Parce que c'est Capcom qui éditait les GTA au Japon.
Et qui cautionne quelque part, mine de rien.
Jusqu'à GTA 4. Oui, bah, c'est un logo qui parle aux gens et potentiellement...
Entreprise
ça peut...
japonaise qui distribue sur le territoire. Ça donne un peu plus de chance.
Et après, ils ont un réseau de distribution.
GTA était très différent aussi. Hein. C'était une version où, au lieu de braquer des gens, tu disais Sumimasen à tout le monde comme ça. Donc c'était très.
T'imagines un GTA japonais où dès que tu bouscules quelqu'un dans la rue, tu te prosternes.
Un flic qui te tombe dessus.
Ouais, il fallait que t'intéresses ton senpai. Enfin, tu vois, c'était des trucs comme ça. Quoi. C'était juste très très différent. C'est pour ça.
Mais donc, ouais, GTA 4 qui avait été bien accueilli au Japon. Il me semble que San Andreas avant lui, déjà aussi, avait plutôt bien marché. Donc ça... les jeux Rockstar. GTA 5 a bien marché au Japon aussi. C'est pas du niveau, c'est pas là où ils font le gros de leur vente, mais ce sont des licences populaires là-bas.
Johnny,
juste un petit mot sur les tests Famitsu.
Oui, tu les aimes pas.
Non, c'est pas que je les aime pas, c'est que c'est pas très. Enfin, je veux dire, on a toujours pris nous en occidentaux. Waouh, Famitsu, ils ont mis telle note.
Parce qu'il y a
toujours
testeurs qui testent les jeux à fond.
Tu sais ce qu'ils écrivent ? Ils écrivent un truc qui est plus court que nos chapeaux.
Oui, c'est
fait
même pas
ça. Oui, c'est un paragraphe.
Ouais. Exactement, c'est un petit paragraphe avec une note sur 10. Bah. Et à l'arrivée, on prend la note des quatre testeurs, on fait une note sur 40. Bah. Voilà.
Mais c'est génial comme système.
Tu trouves ça génial?
Non, mais c'est pas tant ça le problème avec Famitsu.
C'est pas vraiment de la critique.
Le vrai
quoi,
problème, c'est que la moitié, voire peut-être plus de leurs papiers, ce sont des trucs faits en partenariat avec les éditeurs. Famitsu, c'est presque plus du publi-rédac que de la vraie rédaction. Et si à une époque, ils étaient plus exigeants sur leurs notes, on sait que quand. À l'époque, c'était un peu un événement quand il y avait un 40 sur 40 parce que c'était extrêmement rare. Mais là, sur les 10 dernières années, ils en ont fait 2 ou 3 fois plus que sur toute leur histoire.
S'il y a des jeux qui.
Une fois que t'as enfoncé la porte.
Qui sont complètement fous.
Skyrim avait eu la note max, je me rappelle.
Skyrim, il a eu 40 sur...
pour rééquilibrer un peu, autant je suis d'accord avec toi sur la pertinence de leurs tests et des reviews chez eux en général, autant ils réussissent à décrocher des exclus, des interviews qui sont toujours super intéressantes pour nous à traduire.
Parce qu'ils ont des rapports privilégiés vraiment avec les éditeurs. Et les éditeurs savent que le contenu qui sera diffusé dans Famitsu ne s'écartera pas trop du message qu'ils souhaitent envoyer. Donc, c'est pas vraiment du journalisme, c'est...
On va pas critiquer Famitsu ici, ça se trouve un jour on les accueillera et ils nous embaucheront, tu vois, donc on va peut-être éviter.
Mais malgré tout, ils ont souvent des infos super intéressantes.
Complètement.
Et on peut pas leur enlever.
Des espèces de digest à la fin de l'année où ils interviewent tous les développeurs sur leurs projets à venir dans l'année suivante, par exemple, qui sont toujours très intéressants.
Il y a pas qui font ça, il y a 4Gamer, il y a plusieurs médias japonais qui font des trucs comme ça, et c'est vrai que c'est toujours très intéressant.
Donc voilà, Famitsu c'est bien. On va essayer de calmer les tensions avec le Japon là, parce que j'ai pas envie d'un incident diplomatique.
Et Shinzo Abe au téléphone avec trace derrière.
Oh là, ça serait affreux.
Et pourtant on reste au Japon, mon cher Plume.
On reste encore au Japon. Alors on va rester au Japon, Thomas.
On reste au Japon et on fait écho justement à ces.
On fait écho à tout en ce moment.
À ces femmes éplorées qui avaient manifesté leur désaccord auprès de Rockstar pendant le développement du premier Red Dead Redemption. Là encore, c'est une histoire de couple, une histoire beaucoup moins drôle en l'occurrence, puisque pour se venger de son mari qui avait entre guillemets subitement divorcé, c'est ce que nous dit l'article de Traz à l'époque. Eh bien, une ex-femme donc avait assassiné un personnage du jeu MapleStory, donc le personnage de son mari en l'occurrence, par pure vengeance.
MapleStory qui est une espèce de jeu social en ligne, voilà, comme Second Life.
Poufy vous montre une petite image, une espèce de jeu en 2D. Vous créez votre avatar et du coup. Elle s'est vue reprocher l'utilisation illégale de mots de passe, pour commencer, manipulation de données électroniques sans y avoir été invitée, et risquait du coup, écoutez bien, vous dit Traz, $5,000 d'amende, mais surtout 5 ans d'emprisonnement. Elle aurait déclaré pour sa défense, j'ai divorcé si soudainement, sans aucun signe précurseur, cela m'a mis très en colère. Voilà, on ne sait pas si ça justifie le meurtre de sang-froid d'un avatar. Toujours est-il que, pour changer, Traz finissait sa news en se posant une question, comme d'habitude, métaphysique. C'est donc cela, le 21e siècle, point d'interrogation. Ouais. Voilà.
Du Traz dans le texte. Et il reste une troisième news d'il y a 10 ans. C'est au Japon aussi que ça se passe,
Et oui, tout à fait.
C'est une semaine totalement japonaise.
Une semaine placée sous le drapeau du soleil levant. Et en l'occurrence, c'est pas...
Entre tradition et modernité.
Ouais, alors là, je sais pas si la modernité avait du bon, puisque en l'occurrence, c'était la PlayStation 3 qui touchait le fond, nous disait Julo, puisque dans les charts hebdomadaires que l'on publiait à ce moment-là, la PSP trustait la première place des ventes. Alors, on précise évidemment que un tout nouveau modèle de PSP, la PSP 3000, venait de sortir, et on en parlait déjà cette semaine puisqu'il y avait quand même quelques polémiques sur la qualité de l'écran, justement, qui bavait un petit peu, qui étirait certaines textures, mais qui n'empêchait pas la PSP de cartonner. Et à l'inverse, tout en bas du tableau, on trouvait cette pauvre PS3 qui ne s'écoulait qu'à 4725 exemplaires cette semaine-là, derrière la PS2 et surtout derrière la 360. C'est incroyable.
C'est un truc de fou.
Même en 2008, c'était quand même assez dingue.
Mais gardez un œil sur les totaux.
Mais ils en vendaient des Xbox, tu vois, ils en vendaient pas si mal que ça.
Cette semaine-là, je crois.
Oui, ça a très très vite chuté.
Cette
semaine-là,
il y a pourquoi la Xbox est quatrième. Cette semaine-là, il y a dû avoir un jeu qui sortait.
Non, mais en fait, c'est marrant parce que dans la rubrique il y a 10 ans qu'on fait depuis quelques semaines, on est dans une période à ce moment-là en 2008
PS3 qui
où la 360 fait un petit peu mieux que d'habitude. Mais il faut se rappeler que là, la Xbox One au Japon, elle est tellement morte qu'elle fait parfois des semaines à moins de 100 exemplaires vendus. Elle vient tout juste de passer les 100 000 vendus au Japon, et c'est une catastrophe. Mais déjà à l'époque, les 700 000 pour la 360, on trouvait que c'était pas bon.
Ouais.
C'était pas bon du tout.
Hein. Aujourd'hui, on trouve ça pas mal.
Bah regarde, compare les totaux. Tu vois, t'as 2 300 000 PS3 pour 721 360. Donc l'écart est énorme.
Mais il faudra que je me regarde.
Mais ça allait mieux que
franchement. C'est peut-être la semaine où j'ai acheté la mienne, moi, de Xbox 360.
Ah ben voilà. Ah ben voilà, c'était la dernière info d'il y a 10 ans sur Gameblog.
Et du coup, cette fois-ci, c'était Julo qui terminait en nous disant la vie est ouf dingue des fois, que voulez-vous.
Voilà, ah, c'est vrai. Hein.
Voilà, du Julo.
Toujours une analyse.
C'est plutôt la petite note de Traz.
Relecture de Traz,
ouais,
tu veux
la petite relecture de Traz qui te rajoute des qu'en pensez-vous à la fin de ta news sans te le demander. Par exemple, salut Traz. Bon, on en est fini avec les 10 ans, il y a 10 ans et sur Gameblog. Donc du coup, on va passer au premier thème de la semaine. Le premier thème de la semaine, c'est jeu de baston. Mon cher Johnny One, c'est toi qui va nous en parler. C'est Soul Calibur 6.
J'espérais que tu le prononcerais correctement.
Ouais, je peux pas.
Soul Calibur 6.
Non. Soul Calibur.
Si, il fait comme ça un peu au début. Hein,
Soul Calibur 6.
Soul Calibur 6. Chef, on va en parler immédiatement. C'est sorti le 19 octobre dernier, vendredi. Et bah, nous, on était quelques-uns à l'attendre à la rédaction parce qu'on a une certaine nostalgie de Soul Calibur, le premier.
Ah non, et pas de nostalgie.
Soul Edge, Soul Blade aussi.
Formidable série qui dure avec le temps.
Après, peut-être qu'elle s'est un peu perdue avec le 5.
Le 5, mis à part, on est d'accord.
Voilà, bon. Et donc le 6, on l'attendait beaucoup. Et est-ce qu'on a eu raison de l'attendre?
Bah, depuis plus de 6 ans en plus, hein. Donc ça, l'attente était longue et bah, oui, plus ou moins.
D'accord, alors qu'est-ce que tu peux nous dire?
Plutôt plus
merci,
que moi,
c'était
d'ailleurs.
Le thème, c'était le thème numéro 1.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ce qu'il est à la base, à savoir un jeu de baston à arme blanche,
baston 3D
qui aurait changé
blanche,
un petit peu par rapport à l'épisode précédent ou pas?
Alors, bah, on a forcément quelques petits ajustements de gameplay sur ton personnage avec Siegfried. Quand tu fais arrière et carré-croix, ça va pas te faire tout à fait le même coup que dans le 5, ni dans le 4, ni dans le 3, etc. Donc il va falloir déjà te remettre un petit peu sur... de redécouvrir un petit peu tous tes personnages parce qu'ils ont à peu près trois quarts des coups qui sont les mêmes, mais le dernier quart,
comme à chaque itération,
falloir,
un nouveau jeu de baston finalement.
On a des petits rajustements de gameplay, mais la formule reste la même, hein. Toujours une garde, coup horizontal, coup vertical, coup de pied, avec un espèce de système de pierre-feuille-ciseaux dans tout ça, avec une chope. Enfin, là, on reste vraiment sur des bases qu'on connaît et qui fonctionnent, hein, d'ailleurs. Ça a toujours fonctionné de toute façon et ça continue à fonctionner encore aujourd'hui. Et à côté de ça, on vient ajouter quelques petites nouvelles mécaniques, on casualise un petit peu le jeu quand même, avec des inputs notamment pour les spéciaux qui se font d'une simple pression, d'une seule touche. L'ultra, il n'y a plus besoin d'une seule gâchette. Bon, tu vas me dire, ce Soul Calibur 5, il fallait faire un quart de cercle, une gâchette, c'était pas bien plus compliqué non plus, mais là ça devient vraiment encore plus simple, voilà. Et à côté de ça, on a quelques nouvelles petites mécaniques qui débarquent. Alors j'espère que je vais pas me tromper sur les noms, voilà. Le Reversal Edge, donc le Reversal Edge qui est une espèce de pari que tu vas pouvoir faire. En fait, c'est un coup qui va fonctionner un peu comme un focus dans SF4. Tu sais, tu vas le lancer, il va te permettre d'encaisser quelques coups le temps de l'animation. Et si l'adversaire n'a pas réussi à placer suffisamment de coups, ou s'il a complètement, s'il s'est chié dessus, tu vas lui taper dessus et tu vas lancer ce qu'on appelle donc le Reversal Edge, qui est un pari. Voilà.
Un pari, tu veux dire une parade ?
Un pari, non. Ah. Un pari...
PARI.
Pierre-feuille-ciseau.
D'accord.
Qui va fonctionner sur le principe un peu du pierre-feuille-ciseau. C'est en gros le... Alors, je vais dire des bêtises. Hein. L'horizontal, balle verticale, qui balle coup de pied, qui balle horizontal. En gros, c'est comme ça.
Alors, en fait, c'est le moment où le temps va ralentir.
Voilà,
et les joueurs vont avoir une action à faire à ce moment-là.
Exactement.
Et donc, il y a un truc qui va primer sur l'autre. Mais tu peux aussi esquiver.
Ouais, tu peux aussi esquiver. Tu
et
peux
du coup,
garder.
Avoir un avantage...
Ouais, tu peux
tu
lancer
peux aussi,
des attaques
comme quand
un peu
t'es face à Thomas, réussir à contrer une attaque spéciale.
Le mec a réussi une fois, je veux en entendre parler jusqu'à la fin du jour.
Je crois balancer le guard impact. Je sais plus si tu peux faire ça, balancer le guard impact pendant le reversal. Mais t'as vraiment pas mal.
Si, je te confirme.
T'as vraiment pas mal de possibilités.
Mais c'est un moment de tension du coup. Chacun se demande ce que l'autre va balancer comme input.
Ouais, voilà, exactement.
T'as ce qui s'est passé pendant le combat aussi. Enfin, tu vas essayer de mind gamer un peu.
En plus, si tu joues toujours contre le même adversaire, au bout d'un moment, forcément, tu vas très bien le connaître. Et à terme, ça va faire des parties mind game assez folles. Alors, cette mécanique, on peut lui faire quelques petits reproches quand même. C'est-à-dire que si tu commences à jouer au jeu, elle est assez difficile à lire au début. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé face à des piffeurs, hein. Enfin, des spammers sur le net. Mais en même temps, tu vas me dire, c'est un excellent exercice de te retrouver face à ces spammers en ligne, puisqu'en fait, en vrai, au final, il est pas si compliqué que ça à esquiver ce Reversal Edge, et du coup, ça te fait un bon petit entraînement. Voilà. D'être contre des spammers. Donc, c'est une mécanique qui est sympa. Qui est pas oufissime non plus, hein.
D'accord.
Qui peut montrer qu'elle ses limites parfois, malheureusement, comme je te dis, avec des débutants ou des trucs comme ça. Je te dis, un mec qui a pas l'habitude de jouer à des jeux de combat, qui a pas joué à Soul Calibur de sa vie, il va vraiment avoir du mal à voir qu'il va se prendre le Reversal Edge. En fait, il y a un instant, c'est l'instant où tu peux absorber les coups, ton arme devient blanche, et ça dure quoi? Ça dure peut-être une demi-seconde ce moment-là, et puis paf, après, bam, il y a le coup. Et tu vois, sur cette animation qui va durer une seconde, si t'as pas l'habitude, tu vas au début avoir du mal à la lire. Voilà. Donc c'est un coup à prendre.
Ok. Bon.
Et après, du coup, tu peux t'en sortir. Hein. Oui, je suis désolé de te couper, mais l'adversaire peut très bien retourner le reversal, prendre le lead et condoter en plus derrière.
Tout à fait, ouais.
Mais du coup, donc, si on résume ce qui se passe dans l'arène une fois qu'on fait des combats, ça se passe bien.
Ouais, on prend du plaisir, hein, vraiment.
Et le roster est suffisamment, on va dire, conséquent pour qu'on puisse avoir des styles qui sont assez variés et pouvoir justement faire des batailles intéressantes.
En gros, en termes de roster, on va pas avoir de doublons dans cet épisode. On va avoir vraiment un personnage par type d'arme. Genre, tu vas pas avoir une Sophie Tia, une Cassandra. Mm-hmm. Le seul qui est un peu double, mais en même temps, c'est plus vraiment le même personnage, c'est Nightmare Siegfried. Voilà. Là, on a les deux. On a Nightmare et on a Siegfried. Mais bon, ils ont vraiment plus rien à voir.
Oui, après, pour les besoins de l'histoire, on a besoin de les différencier aussi quelque part, donc ça se tient.
Oh, quand tu pètes l'armure de Nightmare, tu as Siegfried en dessous. Ouais, non, t'as vraiment un type de personnage. Genre, t'as un Maxi, t'as un type avec une petite épée, t'as
Yaza Salamel aussi qui fait son retour.
Voilà. Il y en a quelques-uns qui reviennent. En gros, il y a des absents hein, du casting, des absents marquants, genre, je sais pas moi, un Rock ou un truc comme ça qui sont pas là, mais t'as pas Rock, mais à côté t'as Astaroth quand même, tu vois. Voilà.
Et t'as Geralt. Donc,
ouais, t'as Geralt aussi. Geralt qui est pas mal du tout, qui est un petit nouveau, qui se bat avec donc ses deux épées de sorceleur. Donc la première, il sort la deuxième que pour faire des coups spéciaux. Et il a. Donc il s'intègre bien dans le casting. C'est un personnage un peu mi-distance, assez rapide au niveau de ses attaques. Mais aussi qui va se servir de. Alors lui, il peut choisir de dépenser sa jauge de spécial.
Dans
pas uniquement sorts. Pour faire l'ultra à la fin ou pour se faire le buff de personnage. Mais ouais, il peut s'en servir pour balancer des petits sorts de
sorceleur.
De sorceleur. Donc je ralentis le temps au sol, je te fonce dessus en boule de feu. Son attaque ultra, elle est pas mal. C'est le.
Il prend la possession de.
Voilà. Ouais, ça c'est drôle. Bon, même si j'avoue que son histoire, quand tu fais son petit scénario, c'est assez lol quoi. Hein. C'est. Il faut que je trouve comment m'échapper de son royaume. Ah, mais vous aimez tous bien vous battre ici, dis donc. Enfin voilà, tu vois. Dans le niveau, en termes de scénario, ça vole pas.
Si c'est raconté comme ça, je dis oui.
Ouais, non, mais c'est raconté comme ça.
C'est même Johnny Wan qui fait la narration en fait.
C'est lui le narrateur, absolument.
Ah, c'est raconté pas très loin.
Alors, du coup,
ça,
moi je me posais une question par rapport au roster. Est-ce que tu l'as trouvé équilibré?
Ouais, bah oui,
c'est toujours le problème
bah,
au lancement
d'un
jeu de baston.
Tu sais, c'est. Franchement, la formule, comme je te dis, elle change pas tant que ça.
Parce que l'un des nouveaux persos, en l'occurrence, le boss, Aswell,
lui,
quand je l'ai essayé, je l'ai trouvé complètement pété.
Mais en vrai, il est pété, il est pas si pété que ça. Le truc, c'est qu'il a énormément d'attaques basses qui vont à 2000 à l'heure. Donc, ouais, contre un noob, il est pété. Mais après, dès que tu vas commencer à apprendre un petit peu ses attaques, à voir ses patterns, à voir qu'est-ce qui peut te sortir sur un combo,
ça serait équilibré.
Ouais, ce sera équilibré. Voilà.
Faudra voir quand notre lecteur Fenrir évidemment le prendra en main. On peut parler aussi du fait qu'il y ait deux modes aventure.
Ouais, c'est cool ça. Donc on y en a un premier, c'est la balance de l'âme. On retrouve un petit peu l'esprit des modes histoire qu'on avait dans les premiers Soul Ka, où on part sur un mode un peu RPG où ton perso il va monter de niveau, il va récolter des nouvelles armes, les armes tu vas pouvoir les forger.
Alors c'est des persos que tu crées toi-même.
Ouais, tu crées ton perso.
Donc il y a un créateur de personnage qui est bien.
Tiens d'ailleurs ça. J'en parle, moi j'ai trouvé ça décevant parce que c'est le même que dans le 5 en fait, tout simplement. Il est efficace, c'est vrai, hein, mais c'est le même que dans le 5.
Et
il
a aussi. Oui, si vous aimez la dérision, la création aléatoire de personnages dans Soul Ka, c'est un régal. Et d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, pardon, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il y a quelques compilations déjà de reproductions d'avatars complètement hallucinantes sur le net qui vont de Marge Simpson à Tooby, qui est vachement bien faite.
Donald Trump, non, mais t'en as des pas mal. Mais en fait, le délire, moi, ce que je lui reproche vraiment à cet éditeur, c'est je suis extrêmement déçu parce qu'en plus, c'est un peu mon dada, c'est l'éditeur de personnages, c'est de reproposer exactement la même chose que dans le 5 et voire peut-être même dans le 4. Et en plus là, donc on parle du roster, tiens, roster création de personnages, voilà. Très bien. C'est-à-dire que t'as pas mal de combattants qui vont arriver en DLC. Donc c'est
Tira qui va arriver en premier, c'est ça?
Elle est déjà là.
Elle est déjà là?
si t'achètes ton season pass, elle y est.
Je crois qu'elle arrivait plus tard.
Non. Ouais, ça c'est encore un procédé assez discutable, on va dire. Donc tu vas avoir un season pass qui coûte, je sais pas moi, 30-40 balles, un truc comme ça. 4 personnages. Et je pense que tu vas avoir les costumes aussi. C'est-à-dire tu vas avoir du contenu pour l'éditeur de perso. Mais le contenu que tu vas avoir pour l'éditeur de perso, en fait, moi ce que j'ai regardé, c'est qu'en vrai, le contenu qui est disponible aujourd'hui dans l'éditeur de personnages de Soul Calibur 6, bah, il manque tous les DLC de Soul Calibur 5. Voilà. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont là. mais il en manque la plupart. Voilà. Donc en gros, je sais pas, il y avait eu quoi ? Il y avait eu des packs de mariés, des tenues de mariés, des trucs comme ça dans Soul Calibur 5, les packs policiers, les packs docteurs, infirmières, tout ce que tu veux. Ça n'y est pas. Voilà, donc ça va.
Et on
probablement...
imagine à quel point cette peine, quand on bah connaît oui, ton amour oui, des costumes oui. sur Dead or Alive. Oui.
Et je suppose que les anciens costumes que tu as déjà achetés sur Soul Calibur 5, bah, tu vas pouvoir les racheter dans un Season Pass pour Soul Calibur 6.
Nouvelle génération suppose, de console, écoute.
Je suppose. Voilà.
Nouvelle texture, hein, faut payer. Ouais.
Non, c'est les mêmes modèles 3D. Ah, mais justement, on enchaîne du coup sur le point suivant de
tu veux parler de la réal, c'est ça?
Ouais, la réal.
Parce que les modes aventure, tu me les as pas trop développés.
Ah non, c'est vrai.
J'en ai pas parlé.
Bon, bah, le premier, donc Balance de l'âme, c'est génial. Ça, on retrouve l'esprit des anciens. Tu vas pouvoir y passer 20 heures, facile. Mm-hmm. Moi, j'ai bouclé ma première partie en 10 heures. Il faut en faire une deuxième pour finir de l'autre côté, tu sais, du bien ou du mal. Voilà, bon, ça, c'est gadget, mais je le ferai quand même. Je pense que je vais me faire le platine sur ce jeu. Il est assez simple.
J'avais trouvé la narration un peu relou. Ouais,
la narration, elle est pas
géniale.
Moi, je
finis par passer un petit peu les textes. Non, au bout d'un moment,
j'ai passé les textes.
C'est l'impression clairement. Que ça m'avait fait après une heure de jeu.
Donc, il est pas si bien que ça, parce que tu commences par dire ouais,
non,
c'est cool,
c'est
et ensuite
cool.
tu dis ouais.
Tu parles des mécaniques du côté
ouais,
RPG,
ouais, voilà,
etc.
T'es pas là pour le côté visual novel, clairement. T'es plutôt là pour les mécaniques. Le côté RPG, tu vas monter tes armes, ton stuff, machin et tout. Et aussi, un autre truc qui est cool, c'est les combats à condition.
Comme dans le premier mode aventure.
Voilà, qui avait déjà dans les premiers Soul Calibur, genre seulement les dégâts et rien font des dégâts. Waouh, merde, tu dois sortir ton adversaire de ring pour le battre. Oula, comment je vais faire ? Enfin, tu vois, ce genre de petits trucs qui vont te forcer à mettre en place des stratégies et à aborder chaque combat de façon plus ou moins différente.
Et tu t'améliores en plus
cool.
en faisant ça. Parce
ouais,
que ça
bah
t'entraîne.
Oui,
un
ça
peu,
t'entraîne.
J'imagine.
Bah, genre, l'exemple que je donnais tout à l'heure, le combo aérien, ça t'entraîne à. Bah ouais, comment est-ce que je fais pour launcher mon adversaire en l'air ? Et ensuite, une fois qu'il est en l'air, c'est quoi mon timing pour le comboter et c'est quoi mon combo le plus efficace où je vais pouvoir, enfin tu vois, voilà. Donc ouais, bien sûr, cette force à bosser ton jeu, voilà. Donc un premier mode qui est assez complet, franchement, vraiment on retrouve l'esprit des vieux modes aventure. Le deuxième est un peu plus classique, c'est pour le coup là des scénettes visual novel mais beaucoup plus classe, avec de magnifiques dessins. Là pour le coup, celle-là tu les as pas, celle-là tu les regardes dans l'autre mode histoire vraiment, mais qui pour le coup est plus linéaire, c'est-à-dire t'as pas cet aspect RPG, non, c'est t'enchaînes tes scénettes visual novel, les combats visual novel, combats.
Et là, t'as... tu utilises les personnages du roster
ouais,
qu'on
là,
connaît,
les kiliques,
etc. Ouais, là, tu utilises
les personnages du roster, exactement. Donc, t'as un fil rouge d'histoire principale et après, chaque personnage a son petit chapitre avec entre 5 et 10 combats, on va dire, par personnage, voilà.
Et
donc
alors,
là
peux...
encore, pas mal, t'as encore de quoi faire. Peut-être moins, mais je dirais une bonne dizaine d'heures sur ce mode.
Tu peux du coup m'éclairer sur un point, parce que moi, c'est
ouais,
le scénar de Soul Calibur qui m'a toujours fasciné. Ça se situe à quel moment exact ?
Alors, je ne saurais pas te répondre exactement.
C'est entre le premier et le deuxième Soul Calibur.
D'accord. Donc,
voilà.
Y a pas de rapport avec Soul Edge, Soul Blade. Alors, hein, c'est pas entre
si
Soul Edge, Soul Blade et Soul Calibur.
Non, c'est entre Soul Calibur et Soul Calibur 2.
Au début du jeu, on te raconte qu'il y a les anciens porteurs, notamment le premier, Cervantes, ensuite c'est Siegfried, Nightmare. On te raconte l'histoire de Shanfa aussi, qui a eu l'épée du bien sous le Calibur, enfin voilà.
Ça développe d'accord. un petit peu l'univers quand même, ouais. J'ai trouvé ça assez intéressant. Par contre, il y a une question que je me suis posée, j'avais pas eu la réponse quand j'avais pu l'essayer. Justement, ces visuels que tu as qui sont, je trouve, somptueux,
ah, c'est magnifique.
Est-ce que tu les as dans le musée?
Oui.
Ok,
tu vas pouvoir
formidable.
Les déverrouiller. Alors,
oh putain,
par contre, dans le musée, il faut que ça coûte cher parce qu'en plus, t'es sous le point, donc tu gagnes en jouant au jeu, te servent aussi à déverrouiller les costumes.
D'accord.
Voilà, donc moi pour l'instant j'ai débrouillé les costumes, j'ai pas débrouillé la galerie.
Ah, je suis
voilà.
moins costume, ouais. J'aime bien les costumes de base en fait, même quand j'en ai plein, je choisis ceux-là. Donc,
ouais. Donc moi je préfère les costumes. Donc,
c'est vrai,
voilà.
Alors justement les costumes, quand on sait qu'on peut les détruire en cours de,
ouais.
en cours de
ouais,
bataille.
Ça c'est déjà la même mécanique qu'il y avait dans les jeux.
Mais c'est pour parler juste de la réalisation maintenant,
ouais.
parce que toi il y a un terme qui revient souvent dans ta bouche, c'est que c'est dégueulasse.
Ouais,
est-ce
là,
que
non,
le jeu
n'est pas dégueulasse.
Surtout cette semaine de Paris Games Week.
Oui.
le jeu n'est pas dégueulasse, mais... oui, c'était un certain
Dynasty Warriors. Il avait pris cher.
Mais pourtant, bon, en même temps, il était vraiment dégueulasse. Il n'y avait pas d'autre mot. Attends, tu pouvais pas dire autre chose sur ce jeu. C'est impossible.
Donc,
Soul Calibur
n'est pas le jeu qui t'a le plus épaté
non,
graphiquement cette
non,
année.
Graphiquement, bah, en termes de baston, non. En plus, on a eu un petit Fighters qui est passé par là, hein, qui a fait bien mal sur Switch aussi, au passage. Non, clairement, c'est Soul Calibur 5. Voilà.
Mais ça reste fluide.
Ça reste. Alors.
il a des bons côtés, hein. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fluide. Bon, Thomas, moi, je voyais que dans ta preview, t'aimais pas trop les effets visuels. Moi, c'est plutôt
je trouve
quelque chose...
commence à y en avoir beaucoup.
Moi,
en fait,
c'est quelque chose qui m'a séduit, moi, dans ce jeu, clairement.
Après, je comprends que ce soit pour l'e-sport, que ça rende le truc spectaculaire, ouais, etc. Ouais. Mais
moi, je
commence
ça...
à voir les limites de cette présentation-là.
Ouais. Moi, j'ai trouvé ça assez classe dans ce jeu-là. Bon, après, c'est mon point de vue. Je l'ai trouvé plutôt bien fait, assez chatoyant. Il y en a beaucoup. Ça tourne, c'est assez fluide. Le jeu est fluide et du coup, ça, les effets de lumière, parce que le jeu a de beaux effets de lumière, les effets de lumière plus les effets lumineux, ça, je trouve, ça donne un petit cachet au jeu, un petit grain, quelque chose de pas désagréable. Et il en a bien besoin parce que, bah, à côté de ça, les modèles 3D, je te le dis, hein, franchement, je pense que c'est ceux de Soulka 5. Hein. À mon avis, ils ont peut-être lissé, basta, pour les afficher avec une meilleure résolution, 4K, ce que tu veux, mais je pense que c'est les mêmes. Voilà, donc il y a un gros aspect visuel sous le Calibur 5 quand même. Donc heureusement qu'à côté de ça, bah, le jeu il tourne en 60 FPS sans aucun lag et sans aucun reproche possible. Et qu'il a de beaux effets visuels et de belles lumières. Parce que ouais, je te dis, les modèles 3D c'est la cata. C'est de la PS3, c'est sous le K5. Que ce soit sur les persos ou même les décors. Il y en a certains qui sont jolis, hein, qui pourraient être pas mal, qui font rêver, mais
oui, ça rien d'extraordinaire.
Et puis tout est flou au fond, et puis quand dès que tu te rapproches un petit peu, genre t'es sur le magnifique décor de qui est au bord de je sais pas moi, un décor paradisiaque de plage, de ce que tu veux, puis tu te rapproches du pylône qui est un peu au fond, waouh, la texture, voilà, ça y est, non, vite, faut s'enfuir, voilà.
Bon, donc au final, la légende n'est pas morte.
Non, elle a vieilli.
Elle a juste vieilli. Voilà, c'est le titre de ton test que vous pouvez lire sur.
Juste
sur
avant
Game
de
Blog,
refermer, il y a un point qui est très important quand même dont on n'a pas parlé, c'est le netcode, ouais, le jeu en ligne, etc.
Moi,
parce que c'est quand même très important pour du versus fighting.
Bon,
c'était stable quand tu l'as essayé.
Ouais. Bon, alors forcément, quand tu te bats contre un adversaire qui n'a pas les 3 bûchettes ou les 4 bûchettes, ou qui est à l'autre bout du monde, bah, ça lag. Et quand ça lag, c'est une horreur. Voilà, parce que c'est du vrai lag à l'ancienne. Voilà. Bon, après, sinon, dès que tu joues contre des joueurs français ou que tu règles ta recherche de matchmaking à 5 bûchettes ou plus, il n'y a aucun souci. Okay. Voilà. Mis à part les... Tu sais, mais c'est toujours pareil, hein, tous les mêmes jeux de combat, c'est quand il fait le round 1, au début, ça ramouille un petit peu sur l'introduction, on va dire, mais dès que le combat est lancé, c'est parti, il se passe plus rien.
Okay.
Voilà.
Bon. Bah, vivement qu'il tourne à la rédac, j'ai envie de dire, parce que j'ai bien envie de... l'essayer. En ce qui me concerne, il est disponible sur PS4, Xbox One et PC.
Ouais.
Pas vrai ? Ok. Eh ben c'est bon, alors
et
on va passer...
peut-être sur Switch un jour. Hein.
Ah bon ?
Ouais, on avait des interviews d'une news sur Gameblog.
Ça n'est ah bon, pas impossible.
Elle est parue ? Le prod, ouais, elle est parue.
T'es sûr qu'elle est parue ?
Ouais. Ouais, il me semble.
T'es sûr ?
Elle est pas... Oh, non,
en tout cas, la rumeur court.
Ouais, ouais, il y a une rumeur, ouais. Et le prod, en fait, c'est plus qu'une rumeur, c'est le prod, je sais pas qui, du studio, qui a dit « on aimerait bien le faire ». Voilà, tout simplement.
Bon, si c'est beau comme un jeu PS360,
ça tournera
ça
sans aucun problème sur Switch.
Jouable,
c'est l'Unreal Engine, je crois que ça tourne bien sur Switch.
Oui, maintenant
aussi.
C'est assez compatible, oui. Enfin, maintenant, c'est depuis le début, mais bon. Bah
voilà,
écoute,
voilà.
Merci pour Soul Calibur 6.
Alors,
donc,
alors, attends,
ce test.
Une question, le jeu de baston de l'année, non, je pense
non.
pas.
Non. Ah.
Il y en a un autre, je l'ai cité un petit peu juste avant.
C'est vrai.
Ouais, je pense que ce sera lui plutôt.
D'accord. C'était quoi ?
Fighters.
Ah, ok. Ah bon ?
Ouais.
Ok. Le thème numéro 2 de la semaine, c'est pour maintenant pour Thomas. C'est la Neo Geo Mini. Thomas, tu as pu la tester, cette Neo Geo Mini, parce
que
tu as eu, étant jeune et bourgeois, une Neo Geo, évidemment.
C'est évidemment tout à fait faux, puisque j'ai acheté ma Neo Geo en 2011, donc je n'étais ni jeune ni bourgeois.
Et donc tu peux nous parler de cette version
un
mini,
bon nom d'association,
qui est donc ici et que... on va essayer de vous mettre devant la caméra dans quelques secondes et que Johnny va vous montrer en fait. Et cette Neo Geo Mini, première chose qui saute aux yeux, c'est qu'elle est vraiment mini. L'écran qui est dessus, il marche vraiment alors ?
Tout à fait. Alors, la console ne fonctionne pas en l'état. Il faut la brancher, même si vous pouvez aussi utiliser une batterie externe pour y jouer un petit peu. Vous devez la brancher sur secteur. Et effectivement, cet écran qui, sans doute, explique une partie du prix assez élevé de 129,99€ de cette petite console, fonctionne plutôt bien. Alors, si on parle de l'écran seul, c'est un écran d'appoint très lisible. Moi, j'ai eu aucun problème pour jouer dessus, à des jeux de baston, à des Metal Slug, etc. Donc pas de problème de ce niveau là. En revanche, ce qui pêche si vous y jouez comme ça en version arcade, ce sont d'abord les haut-parleurs qui crachent un son dégueulasse. Comme diraient certains, ça grésille vraiment, c'est pas du tout agréable à l'oreille, du coup c'est quand même assez frustrant. Et autre chose, c'est que la disposition des boutons que vous avez dans cette petite borne disposée de manière carrée, bah, si vous avez l'habitude de jouer sur Neo Geo, on perd vite tous ces repères en fait, puisque vous le savez ou pas, je vous ai ramené ma manette, la disposition de la Neo Geo à la base, elle est comme ça en ligne en fait, et du coup vous avez eu l'habitude.
Le décor qui
casse tout le décor, du coup.
D'assigner en fait chaque bouton à un de vos doigts, le pouce étant mis à part, et du coup il faut complètement revoir la manière de jouer.
Vous voyez l'envers du décor.
Et j'ai pas trouvé ça très ergonomique en fait, à titre personnel, surtout sur des jeux de baston. Et il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de jeux de baston sur cette petite console. Ça tiendra pas.
C'est pas grave.
Vous connaissez les grands moments de radio dans les podcasts de Gameblog. En voici un de plus. Du coup, voilà. En termes d'ergonomie, l'achat d'une manette en fait va rapidement devenir assez indispensable, même si la manette n'est pas extraordinaire elle non plus. J'ai trouvé que le stick avait quelques petits soucis de précision sur certaines diagonales. J'ai pas trouvé ça hyper pertinent à chaque fois, mais ça reste quand même beaucoup plus jouable à la manette que si vous y jouez en mode borne portable. Donc 29,99 de plus, ça vous fait déjà une addition à 150 €. Ça commence à peser un petit peu, mais pour 150 €, vous avez quand même un catalogue assez ouf, je trouve, personnellement.
Une quarantaine de jeux, c'est
ça ? On a 40 jeux, très exactement. Alors, vous l'avez su, si vous suivez un petit peu l'actualité de la console, on a un catalogue de jeux qui est différent de la version japonaise de la Neo Geo Mini, où on a plus de Metal Slug et moins de King of Fighters. C'est pas très grave, parce qu'on a quand même KOF 95, 97, 98, 2000 et 2002, donc il y a quand même déjà de quoi faire.
Je crois que le 98 c'est le meilleur. Toute
voilà, 97 et 98 sont là. Donc pour le reste, en plus vous avez tout un tas de Fatal Fury derrière, et surtout Garo Mark of the Wolves, qui est juste
du Samurai Shodown,
incroyable. Il y a trois Samurai Shodown, ouais, dont le Zero Special, dernier jeu de la console, qui est lui aussi vraiment super chouette. Tous les Metal Slug à l'exception du 6, donc du premier au 5 en passant par le X, avec les ralentissements d'époque. Ça c'est un petit peu dommage, l'émulation est tellement fidèle qu'on a les ralentissements au moment où tout pète, où vous balancez toutes vos grenades,
au
et
final,
vous faites n'importe quoi.
Ça permet ralentissement, ça permet de,
ça te permet de lire l'action comme dans un Danmaku, exactement.
Non, voilà, clairement c'est une mécanique. Tu prends un Danmaku, c'est une mécanique.
T'es bien
content. C'est limite fait exprès. Hein.
T'es bien content qu'il y ait des ralentissements. Ouais. Alors en termes de shoot, par contre, il y en a très très peu. Je crois qu'il n'y en a que deux de mémoire. Et il n'y a même pas Viewpoint, donc un des shoots emblématiques de la console. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. En revanche, on a un nombre de hits de l'arcade qui sont vraiment fous. On n'a que deux beat'em all, mais on en a des très bons. Parce qu'il y a Sengoku 3, notamment, qui est vraiment super chouette, que j'ai découvert avec cette collection. Des jeux emblématiques comme Magician Lord, qui est toujours aussi...
Un des premiers jeux sortis, qui était excellent. Ouais.
Et qui est toujours aussi difficile qu'à l'époque. Donc vraiment, en termes de ludo...
T'as même un jeu de catch.
C'est vrai ?
Three Count Bout.
Quelle classe.
Magnifique.
J'imagine qu'il doit y avoir un Super Sidekick qui le traînait, non ? Ouais, Super Sidekicks 1.
Il y a un jeu de foot, ouais. Il y a Super Sidekicks.
Il y a Top Players
Football
Golf.
Frenzy.
Quelle classe.
Ouais, alors Top Players Golf, c'est chouette, mais il y a un autre grand jeu de golf sur Neo Geo qui aurait mérité aussi d'y figurer et qui n'y est pas. C'est un petit peu dommage. Mais sur les 40 jeux proposés, franchement, il y a très peu de choses achetées. Il y a 15 puzzle games qui ressemblent un petit peu à Tetris. Il y a quand même pas mal de puzzle games un peu cultes qui était sorti sur Neo Geo, mais franchement en termes de versus fighting, de jeux d'arcade pur, c'est une très belle sélection. Le problème c'est que voilà, si vous choisissez d'y jouer comme ça, ça va être rapidement compliqué. Seul du coup ça va, si vous acceptez d'avoir un son qui ne soit vraiment vraiment pas terrible, franchement en termes de lisibilité ça va très bien. Et là Poufy a la bonne idée de nous montrer les menus. Justement, les menus sont vraiment pas terribles, ils sont ultra basiques en fait.
Ça ressemble à ceux des NES et SNES Mini.
Ouais, il y a un peu plus de travail d'habillage quand même sur NES et Super NES Mini. Vraiment, là on est sur quelque chose de très simple. En plus vous n'avez pas de bouton dédié pour accéder au menu, il faut faire start et select en même temps, que vous soyez en cours de partie ou sur
le truc, mon dieu, ça m'arrivait tout le temps,
ou sur l'écran de sélection en fait des jeux. Les 40 jeux sont affichés en ligne, donc si vous voulez en retrouver un, il faut souvent tout faire défiler. Vous n'avez pas de menu rapide pour afficher vos jeux. Heureusement il y a des sauvegardes pour chaque titre, donc tu peux sauvegarder ta progression sur un Metal Slug à n'importe quel moment.
Sur le mini habituel,
tu passes par le menu, tu sauvegardes, tu as 4 slots par jeu, donc ça c'est plutôt pratique.
Est-ce qu'il y a l'intro de la Neo Geo, l'intro mythique
Bien sûr. Ouais. Ah, dès que tu lances un jeu, t'as le logo qui tourne, la capacité de la cartouche d'époque.
Johnny.
Ouais, petite anecdote sur le Start Select pour Reset là. Ça, justement, c'est une anecdote en lien avec Soul Calibur. Tu vois, je refais un petit peu de avant. Soul Calibur, j'y ai rejoué il y a quelques temps sur Dreamcast notamment. Bah, c'était avec toi d'ailleurs.
Ah, on s'était fait un super rétro, ouais.
Et moi, je suis du genre à bourriner les boutons pendant les temps de chargement. Mm-hmm. Ça fait quoi dans Soul Calibur quand tu bourrines les boutons et que tu appuies sur Start et Select en même temps?
Ça reset. Mais oui, bien sûr.
Ouais. Oh, exactement. Mon dieu. Oh, je crois que ça nous est arrivé au moins 10 fois.
J'avais oublié.
T'as pas que ton Select sur Dreamcast.
Oh, quelle horreur. Moi, je sais plus c'était quoi la
Start et
boutons,
les 4 boutons.
Quand tu mâchais ouais, les gâchettes et Start, je crois que ça rebootait.
Oui, pour que ça aille plus vite.
Tu vois, et non, reset. Oh non.
Et pour rester dans la thématique baston, un des trucs que je reproche aussi, c'est qu'il n'y a pas de confort en fait, apporté aux joueurs. Là, on voit du coffre. Il pourrait y avoir un menu qui te détaille la liste des coups de tes personnages, parce que tu les as peut-être oubliés avec le temps, tes coups spéciaux, ce genre de trucs.
Il y a pas un petit côté musée comme sur le NES Mini et Super NES Mini.
Il n'y a aucun menu particulier, c'est, ouais, manuel, c'est les portages généralement MVS de l'époque.
Les Street Collection, les conneries comme ça, où tu as quand même un petit peu d'infos.
Il n'y a rien de ça, malheureusement. Donc il faut ou espérer qu'il y ait un menu à l'intérieur du jeu,
ouais,
ou
il n'y a pas d'habillage. Quoi.
Aller sur le net bonus, pour télécharger tes coups. Voilà. Ça aurait été pas super. Ça aurait été logique qu'il y ait un peu de facilité et que, au moins pour les jeux de versus fighting, tu aies le listing des inputs à rentrer pour chaque personnage. Mais bon, après, comme Romain parlait de l'intro des jeux Neo Geo, vous savez qu'aussi quand vous lancez un jeu Neo Geo, vous avez un petit tuto qui vous explique rapidement comment ça fonctionne.
Alors l'écran Raspberry Pi là, c'est bien mignon, mais comme on peut le brancher en HDMI sur un écran normal, le rendu reste respectable. Je veux dire, les jeux sont suffisamment, on va dire, lissés entre guillemets pour qu'on puisse apprécier quand même d'y rejouer. Alors, et qu'on se dise pas, tiens, je vais plutôt aller les chercher sur Switch avec la CA machin.
On y viendra après, mais en fonction de tes préférences, tu as ce traditionnel filtre qui fait que tu peux conserver le côté vraiment pixel art et pixel perfect.
Des faux scanlines.
Exactement, et tu as cette espèce de scan que je trouve vraiment immonde. Hein. Pour tous les remasters,
on va enclencher la machine. Tu dirais comment, toi, Johnny?
C'est dégueulasse.
Ah là, merci.
C'est vraiment, vraiment pas très heureux.
Quand je t'appuierai sur l'épaule maintenant, je veux bien que tu dises dégueulasse. Exactement.
Est-ce que tu peux switcher? Parce que sur la console en elle-même, l'écran est 4 tiers. Évidemment, quand tu les broches sur nos télés actuelles, c'est du 16:9. Est-ce que tu peux switcher sur ton écran de télé entre le 4 tiers et le 16:9?
T'as quelques outils de personnalisation quand même. Autant les menus sont dans leur affichage très basique, autant t'as quand même des options pour avoir le confort de jeu que toi t'estimes optimal. Et c'est vrai qu'au niveau du son, c'est quand même vachement mieux d'y jouer sur la télé parce que le rendu est bien plus fidèle. Et oui, le retour des boutons, vous entendez peut-être Johnny qui martèle les boutons de la borne. C'est pas
top, hein.
C'est pas idéal non plus.
C'est pas top.
Bah non, mais moi j'ai appuyé. Hein. En étant branché sur la télé et en utilisant la borne comme manette.
Tout à fait.
Ouais.
Mais une fois de plus, c'est vraiment
pas le meilleur console.
C'est pas une console portable.
C'est une console transportable qui nécessite un secteur.
C'est une mini, une batterie.
Si t'as une batterie.
Si je veux y jouer dans le tromé comme ça, là,
tu prends ta batterie avec toi.
Tu prends ta batterie avec toi.
Super.
Non, mais t'auras pas de micro dans la main. Ouais. Tu pourras.
Alors, il faut un câble USB-C par contre, j'ai vu.
C'est ça.
Donc, ça, c'est rare, ça, les câbles USB-C. Non
bah, il faut en acheter un.
Surtout à la Radac, ouais. On te retrouvera. J'envoie un message juste à la personne qui a pris les câbles USB-C de la Radac.
Moi, j'en ai ramené un aujourd'hui.
Ouais.
Du coup, je trouve que la facture en fait est un petit peu salée si on ajoute la manette qui est pour moi indispensable. Ça fait quand même une console mini avec certes une ludothèque moi que je trouve vraiment vraiment fabuleuse.
Puis c'est deux fois plus que sur Super NES Mini ou NES Mini. Hein,
mais voilà, ça fait une console à 150 balles avec peu d'options, si ce n'est les options d'affichage et les filtres, ce genre de choses. Peu d'outils qui vous facilitent un petit peu la vie en fait. Et le fait de payer plus cher pour avoir cet écran et ces haut-parleurs embarqués se justifie pas forcément, puisque quand tu vois la qualité du son, tu te demandes si t'aurais pas voulu la payer 50 balles de moins sans écran, sans haut-parleur, en la brochant simplement sur ta télé, dans quel cas le rendu était vraiment top. Ouais, oui, bah,
c'est exactement.
Mais si tu veux rester dans la légalité, voilà, ça aurait été une alternative plutôt sympa. Du coup, si le prix vous rebute, et c'est tout à fait compréhensible, dans la mesure où la plupart des jeux sont sortis sur Switch, sur l'eShop, qui coûtent généralement entre 7 et 8 euros.
Mais pas que sur Switch, hein. Les jeux à PS4 et à Neo Geo, c'est sur PS4.
Ah bah ça montre bien que je ne fais plus beaucoup sur le PSN.
Si tu compares à l'offre qui était sortie aussi il y a quelques années, là, la Neo Geo X Gold, ça valait 200 balles, hein, la X Gold. Et là t'avais une console portable, un stick, une console de salon. T'avais la totale.
Et je crois que les fans n'étaient pas très contents de cette version, non ?
Et pourtant, ça a c'était l'air juste. Ça a l'air. Bon, après, j'ai pas testé moi, donc je peux pas dire. Ah,
on a un copain de la rédac qui avait testé. Je crois qu'il avait pas été très heureux avec ça.
Les avis étaient très négatifs. Les émulations
étaient
pas dingos.
Que Chahid, que j'embrasse, n'était pas du tout heureux avec ça.
Sur le papier, ça fait 10 fois plus bandé que ça, quoi.
Bah, l'objet en tant que.
Sur le papier, hein,
parce que t'as le design en plus.
Mais l'objet en tant qu'objet était plus chouette à l'époque que. Là, j'avoue, quand ils ont annoncé ce truc-là, j'ai pas trop compris l'idée derrière cet objet.
C'est surfé sur toute cette mode de console rétro que Nintendo a ouvert la boîte de Pandore, que ça y est, c'est estimé, tout le monde.
Cet objet-là, il t'inspire.
La Commodore 64 Mini, s'il te plaît.
Oui, mais cet objet-là, il t'inspire aucune nostalgie.
Non,
bah, la NES Mini ou la SNES Mini, elle t'inspire de la nostalgie parce que l'aspect, ça reprend l'aspect de la console que tu connais.
Et puis c'est trop mignon.
Là, t'as juste l'impression d'une petite borne en toc.
Bah ouais, la Neo Geo, c'est pas une borne d'arcade, quoi. La Neo Geo, c'est une grosse machine noire.
Ils auraient dû refaire le
immense, qui était super jolie, avec une ligne bien.
Un design qui est toujours assez actuel, mine de rien.
Exactement.
Ils auraient dû te marketer ça sous forme de X-Gold avec une mini Neo Geo.
Ouais. Bah ouais, mais ils l'ont pas
ça
fait.
Ça aurait été beaucoup mieux.
Et voilà. Ça aurait permis d'avoir une manette qui était plus fidèle aussi à l'original. Donc ouais, du coup, si jamais vous vous posez la question, comme la plupart des jeux sont disponibles en démat à côté, la bonne solution, c'est peut-être justement de choisir ce qui vous plaît le plus dans toute cette ludo et d'acheter Mark of the Wolves à côté, à l'unité, ou ce genre de truc, ou des compilations de Metal Slug, il en existe quand même pas mal. Je crois qu'il y a KOF 97 qui revient aussi sur les consoles de cette génération. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous avez les moyens de mettre 150€ là-dedans et de la brancher sur votre télé, bah c'est super. Franchement, il y a des jeux incroyables que moi j'ai découvert grâce à la Neo Geo Mini. Après, l'addition est quand même un petit peu salée pour une console qui ne propose quasiment aucun bonus à côté. Donc à vous de voir si la nostalgie vous fera dépenser ou non 150 balles.
Très bien.
Et quand on dit 150, hein, je le répète, c'est les 129 de la console et les 29€ de la manette à côté, puisque vous verrez, si vous la prenez, on en vient très rapidement à brancher sa manette.
Et il faut acheter un câble HDMI en plus.
Et pour finir, comme en plus, c'est principalement du versus fighting, des jeux d'arcade, etc.
T'as plutôt envie d'y jouer avec un pote
sur ton canapé, donc ça veut dire une deuxième manette à côté. On fait exploser, on monte à 180€.
Si tu veux faire une LAN après, il faut acheter deux.
Parce que jouer à KOF ou à Fatal Fury tout seul, c'est rigolo 5 minutes, mais au bout d'un moment, t'as envie d'affronter tes potes.
Et en ligne, c'est possible ou pas ?
Malheureusement, non, pas de manière légale.
Puis les manettes n'ont pas l'air non plus d'être autre chose que filaires, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Ah oui, donc ouais.
Et une fois de plus, seulement un stick, et un stick qui n'est pas d'une précision remarquable. Donc voilà, tout ça me laisse
perplexe.
Parce que les manettes rappellent...
Un petit peu perplexe, effectivement. Il y a du très bon et il y a du très discutable aussi sur cette Neo Geo Mini.
Les manettes rappellent celles de la Neo Geo CD, en fait.
Oui, tout à fait.
C'est inspiré de ça.
Et elle est 16+, rappelons-le quand même, c'est écrit dessus. Donc si vous avez moins de 16 ans...
Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux très très japonais. Hein.
Oui, des moins de 16 ans qui s'intéressent à la Neo Geo, je pense pas qu'il y en ait énormément.
Ne désespérez pas. Heureusement, il y a des jeunes qui s'intéressent à l'histoire du jeu vidéo.
C'est pas la majorité, je pense.
Bah voilà, vous connaissez notre avis sur la Neo Geo Mini.
Il y a Fortnite sur la Neo Geo Mini ?
Pas du tout.
Ah merde, il n'y a pas PUBG non plus ?
Non. Non, il y a plein de bons jeux.
Il y a FIFA ?
Il y a Call of ? Non, il n'y a pas tout ça.
Vous voulez que je m'énerve ?
Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Craquer
Need for Speed.
Peut-être pas donc pour la Neo Geo Mini, merci Thomas.
En tout cas craquer en connaissance de cause.
Et là on va revenir à une époque, enfin à une discipline que je suivais à l'époque où la Neo Geo existait pour moi, quand j'étais un peu plus jeune, c'est le catch que Romain lui continue de suivre avec assiduité, qu'il aime toujours, et il a ramené pour les premiums sa ceinture de champion qu'il a contre Shawn Michaels, hein, tu l'avais remporté.
Ouais, c'était un sacré match.
Un match
j'ai encore mal au dos quand je pense.
Ah oui, parce qu'il t'avait fait l'occiput évidemment.
Match en cage.
Je suis tombé du haut de l'échelle, c'était une catastrophe. Le tassement vertébral,
le coup comme ça, comme une tortue un petit peu, tu vois, qui était complètement tassé. Enfin, il t'est arrivé des bricoles.
Il y avait Donald Trump dans le public à cette époque-là.
Le coup de la cordage. Non, pas cette fois-là, mais ça aurait pu. Et donc oui, parce que chaque année on est là, oui, PES, FIFA. Et bah pour une fois, j'ai eu le droit à mon duel comme ça, avec des débats enflammés avec personne.
J'ai pas eu le temps, je suis désolé, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas eu le temps.
Et bah oui, parce que cette année on a deux jeux de catch qui sortent chez nous quasiment simultanément. Et je vais pas y aller par quatre chemins. En fait, les deux sont très intéressants.
Oui, parce que tu parles de duel, mais finalement, c'est plutôt de la complémentarité. Ah bah, c'est un tag team, finalement.
Sachant, en fait, oui et non. Les fans les plus hardcore, ça sera complémentaire. Mmh. Et donc là, ils ont vraiment de quoi s'amuser sur les deux. Après, les fans de catch un petit peu plus casual, je pense qu'ils se dirigeront plus vers WWE 2K. Mmh. Parce que c'est la WWE, donc c'est forcément plus grand public, c'est de la 3D, etc. Fire Pro, là c'est vraiment pour les hardcore de chez Hardcore. Hein. Donc je sais pas trop comment vous présentez les
on
choses.
On peut présenter les deux recettes qui sont proposées. La première, tu l'as dit, c'est un jeu de catch en 3D, moderne. Pour WWE.
Voilà, les WWE 2K, en fait, ils sont dans la droite lignée de la série SmackDown issue de la première PlayStation. Donc
c'est Yuki's toujours qui développe.
Ouais. Yuki's qui développe le jeu. Et donc ça continue depuis des années et des années. Après SmackDown, c'est devenu SmackDown versus Raw, et ensuite c'est devenu WWE suivi de l'année. Et depuis que Touquet,
j'ai cru que c'était un match Ronda Rousey contre Rey Mysterio.
Tu peux pas faire de match homme contre mince. Et depuis que Touquet a récupéré la licence, c'est devenu des Touquet machin, Touquet 14, 15 machin. Et donc là, c'est le nouvel épisode de cette année sur lequel pas mal de modifications ont été apportées, pas tant du côté du gameplay, mais surtout au niveau des modes de jeu. En fait, ils ont beaucoup plus scénarisé que par le passé. Déjà, ils ont fait revenir un mode qui était absent depuis 2-3 ans qui s'appelle le mode showcase. Là, c'est consacré à Daniel Bryan. En fait, tu vas faire
le sympathique Daniel Bryan.
Très sympathique Daniel Bryan. Tu vas faire une dizaine de matchs de sa carrière. Et en fait, des matchs qui se sont vraiment produits. Et pour progresser et débloquer des choses, en fait, tu dois reproduire les matchs le plus fidèlement possible à la réalité. Donc, tu as des objectifs en cours de match. Faire tel type de dégâts à tel endroit, faire telle prise à tel moment, etc. Et ces matchs-là sont entrecoupés de séquences vidéo réalisées par la WWE. Et le côté original de cette année, c'est raconté par Daniel Bryan lui-même. En fait, il est tout seul face caméra. Et il fait les transitions entre les matchs. Il rappelle sa carrière. Donc, c'est un peu comme une sorte de documentaire interactif, tu vois. Et c'est vraiment super chouette.
Ça a été tourné pour le jeu. Hein.
Ça a été tourné. Exclusivement fait pour le jeu et c'est très plaisant à suivre. C'est chouette. Bon, c'est de l'histoire moderne du catch. Hein. C'est des choses qui ont pas plus d'une dizaine d'années, grand maximum.
Quand même.
Non, mais c'est juste, je veux dire, le premier match qui se passe il y a un peu plus longtemps, mais sinon tout le reste, c'est des trucs des 5 dernières années, on va dire.
Shawn Michaels, Undertaker, on les verra pas quoi.
Ils y sont toujours. Oui, non, mais même encore maintenant. Ouais. Mais ils se sont pas battus contre Daniel Bryan, donc ils sont pas présents dans ce.
Tu parlais du roster normal, mais le roster normal, il y a tout le monde. On a vu Roddy Piper tout à l'heure.
Le plus gros roster de. Parce qu'il est décédé.
Il est décédé, Roddy Piper, tu sais.
Ah, mais donc, excuse-moi, j'en sais rien.
C'est le plus gros roster de l'histoire de la série. Donc chaque année, ils continuent d'aller dans la surenchère. Et là, cette année, ils ont peut-être retiré certains noms auxquels on se serait attendu, de certaines légendes, pour mettre plus de petits nouveaux. Donc c'est vraiment le roster qui est décomposé en trois parties. Tu as les catcheurs actuels, aussi bien hommes que femmes, les petits nouveaux, aussi bien hommes que femmes, et les légendes, là pareil, hommes et femmes confondus. Donc il y en a vraiment, en termes de roster, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça c'est cool. En parallèle à ça, l'autre grosse nouveauté c'est pas vraiment une nouveauté, c'est une revisite. Ils ont refait donc le mode ma carrière. C'est le mode ma carrière qui est également dans les NBA 2K.
Absolument, oui.
Donc là, c'est version catch. Donc tu crées ton catcher et tu commences vraiment du bas de l'échelle d'une petite fédération indépendante. Et tu progresses et c'est acté en fait. Je veux dire, les catcheurs réels ont prêté leur voix. Les catcheurs créés pour l'occasion ont été doublés aussi par des comédiens. Et t'as des choix à faire. Et l'histoire est cool. Vraiment, en plus, il y a plein de petites référence que les fans les plus connaisseurs comprendront et que les autres auxquels les autres feront pas forcément attention. Mais t'as de l'intrigue, t'as du mystère. Alors que l'année dernière, dans le mode ma carrière, en fait, t'avais des sortes de passages en pas en monde ouvert, mais presque, où tu te baladais librement dans les coulisses. Mais c'était d'un vide. Et les dialogues, t'avais des textes avec les bouches qui bougeaient.
Ça, c'était déjà le cas il y a 18 ans, ça.
Vieux truc, mais ils l'ont refait. Ils l'avaient pas fait pendant des années. Et là, ils avaient intégré ce truc-là. Et c'était pas très intéressant. Et c'était super vieillot. Là, ils ont vraiment fait des efforts. Et même au bout d'un moment, le truc, il part un peu dans le fantastique. T'as des trucs un peu grotesques pour faire rigoler, tu vois. Mais ils se sont donné du mal, en fait, à écrire ce truc-là. Et moi, personnellement, je trouve ça limite plus intéressant que les scénarios réels que t'as à la WWE en ce moment. Donc j'ai passé un bon moment à suivre ça. Après, en parallèle à ça, t'as tous les modes de création, parce que là les gens rigolent sur Soul Calibur 6 avec leur mode de création, mais moi je pouffe doucement, quoi, parce que ils sont tellement dépassés par les jeux de catch depuis des années en termes d'outils de création.
Ça, mais tellement.
Tu peux faire Mark Simpson dans
mais bien sûr,
WWE.
Mais va sur YouTube, t'as des Battle Royale mais totalement improbables avec des personnages mais venus ça fait des années que ça dure. Donc c'est pour ça, là je vois les gens partager ça sur Twitter et tout, je dis bon bah
mais tu sais bien, à chaque fois qu'il y a un éditeur dans un jeu, quand même quand Bloodborne est sorti, tout le monde s'extasiait parce que Bloodborne avait un éditeur de personnages et tu pouvais faire le Joker ou Harry Potter, enfin tu vois, c'est comme ça à chaque fois. Donc mais bizarrement les WWE,
Joker et de Harry Potter dans Bloodborne, je vois pas trop ce que tu peux faire d'autre.
Il y a eu pas mal de créations, ouais.
T'as des Battle Royale de personnages de Dragon Ball Z, t'as des Battle Royale de personnages de Nintendo, enfin bref, ça c'est nouveau. Et là en plus dans celui-là, c'était déjà le cas avant, mais tu peux créer ton arène avec encore plus d'options, tu peux créer ta ceinture de champion, il y a toutes les options de création qui étaient déjà présentes auparavant, qui sont là encore plus étoffées avec encore plus d'options. Le mode univers où là où tu gères ta propre fédération avec les différentes émissions, etc., ça c'est toujours là aussi, là encore avec plein d'autres options en plus. Donc en gros il est encore plus riche que celui de l'année dernière. Les modes scénarisés sont mieux faits et plus intéressants, et pour le cas du showcase il est carrément de retour parce qu'il l'avait supprimé ces derniers temps. Donc c'est vraiment un bon épisode cette année.
Donc c'est une bonne offre pour le contenu, mais en termes de jeu, imaginons, j'ai envie de me remettre à un jeu de catch. Les mécaniques maintenant, que ce soit de déplacement, de coups, de projection, de soumission, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible, qui n'est pas trop rébarbatif?
Alors en fait ça a pas trop changé depuis ces quelques années. Dans certains types de matchs spécifiques ils ont rajouté des petites options. Chaque année aussi ils rajoutent toujours des animations de transition. Par exemple un catcheur qui est par terre, s'il veut se relever, il va pas se relever de la même manière s'il est à côté des cordes que s'il est au milieu du ring, tu vois. S'il est à côté des cordes, il va prendre appui sur les cordes pour s'aider à se relever. Donc tu vois, des animations comme ça contextuelles ils en rajoutent chaque année. Mais pour les déplacements dans leur ensemble, on est quand même très proche de ce qu'il y a, de ce qu'il a été fait ces dernières années. Oui, mais c'est surtout, enfin, je pense que c'est surtout une question de budget. Je pense qu'ils mettent pas le même budget dans un WWE que dans un NBA, et donc ils font au minimum à chaque fois.
Mais le gameplay donc reste agréable.
Ah bah oui, tu peux, si tu prends, parce qu'il est jouable en plus en local, tu peux jouer à 6. Tu te fais une partie à 4 ou 5 ou même 3 joueurs humains. Enfin, les jeux de catch, même quand t'es pas fan de catch, t'as de quoi te marrer. Moi je peux plus compter le nombre de parties que j'ai faites avec des gens qui n'aiment pas le catch et qui n'y connaissent strictement rien, mais le gameplay se suffit à lui-même. Et c'est vraiment marrant de se mettre sur la tronche comme ça, surtout que t'as des types de matchs grotesques, genre les matchs où de l'échelle par exemple, où t'as le mec
qui est en train
la mallette ou la ceinture accrochée au ring, et toi tu péniblement t'essayes de grimper, il y a ton pote qui vient te faire tomber de l'échelle alors que ça fait une demi-heure que tu le défonces pour essayer de monter sur le truc. Enfin, c'est toujours très marrant. Donc voilà, ça c'est en fait le seul reproche véritable que je fais à ce jeu-là, c'est que je le trouve techniquement dépassé. Enfin, on rêve vraiment d'un WWE avec un niveau de réalisation d'un NBA 2K par exemple. Aussi bien au niveau des commentaires que de l'apparence, la modélisation des catcheurs, etc.
Mais ça impliquerait pour Hughes de reprendre peut-être à zéro et d'utiliser des outils qu'ils ne connaissent pas. Et
oui, coup, depuis que 2K a récupéré la licence WWE, on a cette promesse de l'utilisation de l'expertise de Visual Concepts sur le catch. Alors oui, ils aident à certains points, il y a du mieux, mais on est encore loin et on sent que c'est utiliser une base et continuer de rajouter des trucs par-dessus plutôt que de reprendre tout à zéro et de refaire un nouveau jeu. Et ce qui me fait peur, et c'était déjà le cas la génération précédente, tu sais, c'est quand t'arrives à un point dans une génération où t'es plus sur la fin. Donc plutôt que de refaire tout, ils rajoutent des trucs et j'ai peur que, aussi bien en termes de mode de jeu que de roster, etc. Et j'ai peur qu'ils nous fassent comme ils nous ont fait au début de cette génération-là, c'est que quand on passera sur PS5 et sur Xbox Scarlett, et bah qu'ils recommencent à zéro, tu vois, qu'ils nous reproposent un premier jeu avec un contenu un peu rachitique et qu'après ils puissent nous vendre l'année suivante. Bah oui, regardez, maintenant on rajoute tel mode.
Qu'ils l'améliorent au fur et à mesure à chaque itération.
Oui, mais c'est qu'ils nous refont la même chose en fait. À chaque génération, début de génération, ils nous retirent plein de catcheurs, ils nous retirent plein de modes, etc.
Mais tu voudrais pas qu'on affiche tout de suite non plus.
Mais non, mais plutôt que de retirer des modes et nous présenter ces trucs considérés comme acquis, comme étant des nouveautés, que la nouveauté qu'ils nous mettent en avant soit vraiment une refonte technique de globale. Voilà,
eh bien écoute, il va falloir que tu leur payes des heures sup pour qu'ils bossent 100 heures par semaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Mais après, moi je m'accroche à ça, c'est que quelqu'un de très haut placé chez Take-Two, 2K, je sais plus si c'était Strauss Zelnick ou quelqu'un d'autre, disait que des investissements allaient être faits dans les prochaines années pour améliorer la qualité des jeux de catch. Donc j'espère que ça sera va vraiment se ressentir, mais il n'empêche que WWE 2K19 est un bon jeu, est un bon épisode sur cette génération. C'est certainement le meilleur qu'on a eu jusqu'à présent. Donc si le catch vous intéresse un tant soit peu, il y a de quoi s'amuser.
Et si le catch vous intéresse un tant soit peu, Fire Pro Wrestling World est aussi une proposition très intéressante.
Très intéressante, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Alors Fire Pro Wrestling, déjà, c'est une série qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Donc chez nous, on a eu, je crois, 3 épisodes au total qui ont été
30 ans.
30 ans, ouais.
Attends, ça a commencé sur NES ?
Ça a commencé sur
PC Engine.
PC Engine, ouais.
PC Engine, la vache. Ouais.
Et donc il y a eu plus de quasiment 30 épisodes aussi au total de Fire Pro. C'est une série, il y en a que 3 qui sont sortis chez nous, il y en a un sur GBA. Un qui était sorti sur Xbox Live Arcade sur 360, qui était en 3D, donc qui est vraiment pas à comptabiliser.
PlayStation aussi.
Et non, ah pas bon chez nous.
Ah
et
ouais
l'épisode qu'on a là sur PS4 et PC. Mais mis à part ça, tout est sorti au Japon. C'est la série sur laquelle Suda51 a fait ses premières armes.
On peut rappeler quand même que ce qu'il avait fait sur cet épisode de Fire Pro Wrestling était juste incroyable.
Ah bah le premier, c'est le deuxième, je crois. Le deuxième Fire Pro sur lequel Suda a bossé, la campagne scénarisée en fait se termine par le suicide du héros. En fait, il a gagné.
Quelle classe.
Il a gagné le championnat. Il a fait le tour de la question. Tu vois un plan de sa maison. Et t'entends un coup de feu.
Voilà. Suda51.
Vous avez déjà vu beaucoup de jeux comme ça qui se terminent par le suicide du héros.
Ça change, écoute. Voilà. Ça mène un peu de variété.
Pour être totalement transparent, quand j'ai la seule fois de ma vie où j'ai été au Japon, j'avais essayé de trouver ce Fire Pro, je ne l'avais pas trouvé. Là, j'y retourne en vacances. Je vais rechercher ce Fire Pro parce que je le veux dans ma collection, celui-ci. Et donc Fire Pro Wrestling, c'est visuellement une série qui n'a pas beaucoup évolué au fil du temps. Ça reste du gameplay 2D, mais du gameplay extrêmement technique. C'est vraiment le pour les hardcore de chez hardcore, tu vois. C'est l'équivalent d'un jeu de combat Dark System, mais pour les fans de catch, tu vois. C'est tellement technique que tu as une touche pour prendre ta respiration, en fait. Parce que si tu bouges trop dans tous les sens et que tu fais n'importe quoi, et ben ton perso il va être complètement claqué et il arrivera plus à bouger. Les dégâts sont comptabilisés sur les différentes parties du corps.
Donc c'est localisé à chaque fois.
C'est localisé. Quand tu veux entraîner ton personnage que tu as créé, et ben là tu entraînes sa résistance, tu entraînes son souffle. Tu vois, tu te contentes pas comme dans d'autres jeux, genre améliorer ses prises. Améliorer.
Bon, aujourd'hui, on améliore le coup de gauche.
Améliorer ses coups de pied. Améliorer sa stamina. Non, là, tu gères énormément de paramètres. Et c'est du gameplay toujours en 2D, basé sur le timing, en fait. Tu dois vraiment appuyer sur la touche au bon moment. Et aussi, ça tient compte, et ça, c'est assez exceptionnel, je trouve. Ça tient compte du déroulement d'un match de catch au sens discipline artistique et pas faux combat. Tu vois, par exemple, dans un WWE, le but, c'est de battre ton adversaire comme dans un jeu de combat lambda, avec les spécificités du catch, bien évidemment. Mais là, par exemple, à la fin de ton combat, une note sur 100% t'est donnée. si tu vas massacrer ton adversaire sans lui laisser le temps de respirer pendant 5 minutes, bah tu vas avoir une mauvaise note.
T'as pas diverti le public,
voilà,
donc
parce que dans un match de catch, t'as des rebondissements, t'as des hauts et des bas, et pour être haletant, il faut savoir faire son comeback au bon moment. Donc il y a des moments où volontairement, pendant un combat, tu vas devoir lâcher prise, te laisser malmener un peu, et au bout d'un moment, décider. Parce qu'en plus, si tu te laisses faire, l'adversaire, il va s'acharner sur toi et il va te battre à plat de couture. Mais au bout d'un moment, bah, il faut savoir quand faire ton retour, avec quelle prise les faire. Il faut savoir aussi quand faire quelle prise. Parce que par exemple, si tu essayes de lancer ton finisher en tout début de combat, bah, l'adversaire va te contrer, ça ne marchera pas. C'est pareil, une prise de soumission lancée en tout début de combat, ça n'a aucun sens. Donc il faut commencer un peu doucement, y aller progressivement. Ensuite se laisser malmener un peu par l'adversaire et ensuite prendre le relais. Oui, je vous vois réagir aux images parce que autre spécificité de Fire Pro Wrestling par rapport à un WWE, c'est qu'il y a énormément de types de catch, de types de combat de catch, y compris des types qu'on voit jamais aux États-Unis mais qui existent au Japon.
Mais
par
c'est
exemple.
C'est hardcore de mettre du barbelé comme
oui,
ça
bah
sur
les,
le côté.
Et des mines.
Les fils barbelés, le ring. Le ring
genre, les mecs, ils déconnent pas. Quoi.
Le ring explosif, etc. C'est, tout ça existe, hein, j'en ai vu, ça se fait.
Non, mais là, il faut arrêter.
Oui,
quoi,
oui, ils tombent dans des barbelés surexplosifs. Bah, Mick Foley, tu sais, qui jouait le rôle de Mankind à la WWE.
Oui, Mankind, et le faux frère de Undertaker. Non, c'est Kane.
Non, son rival. Ouais, c'était un des rivaux de l'Undertaker. Bah lui s'était fait un nom au Japon au milieu des années 90 où il faisait des matchs comme ça, brûlé au troisième degré, complètement coincé dans les barbelés, etc. Moi je vous avoue que j'adore le catch, bah vous le savez, mais ces types de matchs là j'ai du mal à les regarder. Mais j'avais étant adolescent, je m'étais acheté des VHS de catch japonais extrême comme ça, me disant ouais, tu sais, quand t'es jeune comme ça, quand
ah
t'es
bah
ado,
tu cherches ce genre de truc,
violence,
quoi, bien
ça,
sûr.
Et j'ai regardé le truc et ça m'a mis mal en fait, voir les mecs se couper la tête avec des couteaux quasi carrément dans le front, tomber dans les barbelés et pas réussir à s'en sortir parce qu'ils
hashtag
sont coincés, ils ont la chair coincée dans les barbelés.
Non mais c'est du faux.
Non, c'est du vrai.
Oh merde.
C'est du vrai, bah, c'est facile à trouver hein, sur YouTube ou des trucs comme ça. Et franchement, moi ça me.
Je suis en train d'imaginer Jackass version japonaise.
Ça me met mal. Vrai, non, et tu as des autres dans les options de Fire Pro, tu peux aussi mettre les tubes fluorescents dans les coins du ring. Parce que ça aussi, ça se faisait. Genre, si tu balances ton adversaire dans le coin du ring, bah, il s'explose dans des tubes fluorescents. Et bon, là, comme c'est de la 2D, visuellement, c'est pas trop choquant.
Bah, il y a du sang quand même.
Mais oui, il y a du sang. Et il faut garder à l'esprit que tout ça existe bel et bien. Autre ajout intéressant de ce Fire Pro, c'est que jusqu'à présent, la licence Fire Pro Wrestling ne proposait que des catcheurs fictifs qui étaient facilement reconnaissables. En modifiant les couleurs et les noms, vous pouviez, un peu comme les vieux PES, tu vois, tu pouvais patcher le truc pour avoir des vrais catcheurs. Donc là, les catcheurs fictifs sont toujours bel et bien présents. Mais en plus de ça, ils ont passé un accord avec New Japan Pro Wrestling, qui est un peu la WWE du Japon, tu vois, la ligue japonaise numéro 1. Donc tu as tout le roster. T'as des catcheurs de New Japan qui sont dans le jeu, donc ça c'est cool. Évidemment, avec le site internet officiel du jeu, vous pouvez récupérer des catcheurs modifiés. Donc si vous avez envie de jouer avec The Rock ou Hulk Hogan ou l'Undertaker,
parce que l'éditeur est très complet en plus.
L'éditeur est extrêmement complet. Donc de base, si vous avez le talent pour ça, vous pourrez aisément créer des catcheurs très célèbres de manière très très reconnaissable, aussi bien en termes de mouvement que d'apparence. Mais il y a aussi un site service qui est accessible gratuitement où les internautes partagent leurs créations et donc ils font ça très bien. Moi j'ai téléchargé plein de catcheurs réels que j'ai intégrés à mon jeu, mais donc les catcheurs de New Japan sont dedans et ils sont aussi au cœur du mode Fighting Road, qui est le mode campagne du jeu. Et c'est marrant parce que ça prend un peu l'aspect d'un visual novel avec des photos fixes, avec des textes qui défilent. Vous avez des choix à faire, des combats à objectifs. Et dans les dialogues, vous commencez en tant que nouvelle recrue qui essaye de se faire engager par New Japan. Donc vous commencez au dojo de New Japan. Ça se passe comme ça dans la réalité, hein. Les jeunes sont d'abord envoyés au dojo. Ensuite, ils deviennent ce qu'on appelle des Young Lions. Donc pendant un an ou deux, ce sont les jeunes catcheurs en fait, qui se font un peu martyriser dans les combats. Et ensuite, tu deviens une star et tu as des choix de factions à rejoindre, etc., etc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'une fois encore, le côté... catch en tant que représentation sportive artistique et expliquer, genre quand tu fais tes premiers combats contre tes maîtres dans le dojo, ils te disent oui, bah le catch il faut savoir prendre les coups, etc. Tu vois, ils disent pas explicitement c'est fake, Mais ils expliquent qu'il faut laisser l'adversaire te taper, que c'est un partenariat entre les deux. Donc c'est,
et l'important, c'est que le public en ait pour son argent.
Voilà, et aussi, voilà, pour que le public passe un bon moment, il faut savoir faire les matchs correctement. Qu'est-ce qu'il y a ?
Les menus ont l'air un peu roots quand même. Ça a l'air très basique.
C'est très roots. C'est Kenny Omega que vous voyez là à l'écran, le blond. C'est lui qui était dans un trailer de Street Fighter 5 il n'y a pas très longtemps, où il jouait le rôle de Cody.
De Cody, ouais.
En fait, c'est un Kenny Omega, donc c'est la plus grande star du catch qui est canadien, mais c'est la plus grande star au Japon en ce moment, qui est un otaku. De ouf, en fait. Si le mec est parti vivre au Japon...
Canadien-franco-canadien
Non, pas franco-canadien. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas.
C'est lui qui a le coup One Winged Angel.
Avant, il faisait des Hadoken en combat, etc. En fait, le mec, c'est vraiment... Il a commencé en faisant du catch humoristique. Parce qu'au Japon, c'est un style... C'est ce qu'on appelle les matchs comédie. Où, en fait, il avait fait un combat, par exemple, contre une petite fille de 8 ans. Vous regardez la vidéo sur YouTube, c'est très marrant parce qu'il fait effectivement un match contre une gamine.
Et c'est la gamine qui gagne ?
Non, je crois qu'il la massacre.
Ouais, il la défonce.
Il finit par la défoncer. Et donc il a commencé comme ça, mais comme il est très talentueux, il a pris du galon. Et d'ailleurs, c'est quand tu connais le catch, te faire connaître dans le catch humoristique, c'est très difficile d'être pris au sérieux. C'est un peu comme un acteur qui ferait des sitcoms en France. C'est difficile.
Les gens sont habitués à ton personnage et du coup ont du mal à t'imaginer comme étant quelqu'un de vénère.
Voilà, c'est ça.
Hugh Grant qui peut pas jouer des salopards.
Bah c'est comme les acteurs des sitcoms AB qui ont pas fait de cinéma ensuite parce qu'ils sont coincés là-dedans. Bah non, lui il a réussi à s'en tirer et il est extrêmement talentueux et c'est un gros gamer, mais vraiment un gros gamer. Et il adore ça. Il fait toujours des trucs pour Capcom sur Street Fighter. Enfin bref, c'est vraiment un hardcore de chez hardcore. Et donc oui, tu parlais du côté roots des menus. C'est effectivement à l'ancienne dans la présentation qui est.
Et c'est probablement qui est voulu d'ailleurs.
Oui, bah FirePro, ça a toujours été ça. Mais l'intérêt se situe vraiment au niveau du gameplay. Hein. C'est super déroutant. Moi, j'avais déjà joué à des FirePro, donc je savais à quoi m'attendre. Mais si vous n'avez joué qu'à des jeux WWE, passez sur FirePro. Au début, ça va vous faire bizarre. Ces histoires de timing, genre vraiment appuyer au bon moment pour pouvoir faire une prise, gérer la fatigue, gérer les réactions de l'adversaire et le tempo dans un match. Moi, je trouve ça super intéressant. En plus, il y a vraiment énormément d'options de match. Tu vois, les matchs barbelés et trucs comme ça. Mmh. Et tu as même un mode MMA où tu es dans une cage un peu comme dans l'UFC. Et là c'est pareil, les combats se déroulent plus de la même manière. Par exemple là, si tu arrives à enquiller des strikes, donc des coups assez percutants ou des prises de soumission, bah là les matchs vont s'arrêter beaucoup plus vite parce que c'est plus du tout le même délire. Donc c'est vraiment complet.
Tu conseillerais celui-là plus en complément en fait d'un WWE?
Alors bah oui, parce que en fait un fan de catch hardcore, je l'imagine mal se passer d'un WWE. Donc il prendra celui-là aussi en plus parce qu'il apporte quelque chose de vraiment différent.
Il a un prix plus acceptable.
Oui,
plus,
il te montre. Oui, c'est 40
ou
40 euros, 40 je crois. Euros mais il a baissé de prix récemment aux States, donc peut-être chez nous aussi. Mais il te montre un aspect du catch qui est totalement différent. Et si vous êtes un peu curieux sur ce qu'est le catch japonais, c'est aussi un bon moyen de vous initier. Mais par contre, oui, j'imagine mal un fan de catch un peu... Pas casual, mais moins hardcore, ne prendre que FirePro. J'imagine assez mal. Même si vous pouvez y jouer à 4 en local aussi. Il peut être potentiellement très convivial, mais il sera très convivial si tu te retrouves avec 3 autres personnes qui savent y jouer comme toi. Alors que quelqu'un qui joue pas à WWE peut très vite se mettre dans un match et réussir à s'amuser. FirePro, ça nécessite quand même des explications.
Après, faut en profiter, puisque comme tu le disais, ils sortent pas très souvent chez nous non plus.
Ah bah oui, qu'on ait le droit à un FirePro chez nous, c'est vraiment un événement. Pour les fans de catch, c'est un événement. Après, le petit détail qui est dommage, je sais que les fans de catch, on a tellement été peu gâtés au fil du temps que je sais qu'une bonne partie d'entre eux comprennent l'anglais parce qu'on a appris l'anglais parce qu'on était un peu obligé, sinon on n'avait rien, tu vois. Mais FirePro est pas sous-titré en français, donc c'est-à-dire tout le mode Fighting Road, tous les textes, tout est en anglais, les menus sont en anglais, donc ça pourra potentiellement en rebrousser certains. Mais je sais que les fans de catch à qui ils s'adressent principalement, eux ne seront pas gênés parce qu'ils ont appris avec le temps à faire avec.
Donc, conclusion,
oui
les
et
deux
oui.
Oui et oui, oui pour et les oui. deux.
Contrairement à FIFA ou PES où visiblement il faut choisir son camp.
Bah oui.
Et bah, sur le catch, c'est pas le cas. On a une belle année, chers fans de catch. Profitons-en. C'est pas toujours comme ça. On a de quoi s'amuser deux fois plus.
Bon, et ben voilà, bah parfait, moi le deuxième m'intéresse un peu
oui,
plus.
Ah oui, non, juste un détail qui m'échappait et qui est très important.
Vrai. Oh le regard.
Là, j'en avais parlé avec Thomas parce que ça m'avait fait halluciner. Bah, parce que t'étais pas là.
Ah bah
parce
merci, que tu ça jouais, fait plaisir.
Parce que tu jouais
non,
à Blue.
Non, j'essaie d'imiter quelqu'un que tu connais. Là, tu me trompes alors. Hein.
Ah bon?
Ouais.
C'est qui?
Tu rappelles pas quelqu'un qui dit des choses comme ça au milieu de la rédac des fois?
Tu me trompes?
Ouais. Oh, ouais, laisse tomber, on la refera.
Je vois pas non plus, non.
Non mais,
par contre, il a raison, t'étais pas beaucoup là ces derniers temps en fait.
Blue, donc, Alive, Blue Alive Retribution, c'était.
Blue Alive Retribution. Voilà, ça y est, c'est, j'ai pas dû suivre.
Ouais, non, mais t'inquiète pas, on a très bien compris.
On va en parler alors.
Et oui, un bug, enfin plusieurs bugs absolument incompréhensibles dans Fire Pro. Mm-hmm. Des bugs connus. Parce que j'ai cherché sur internet, d'autres personnes les ont subis, mais pour l'instant il y a eu plusieurs patchs sur le jeu, mais c'est toujours pas corrigé. Quand tu lances le jeu sur une PS4 réglée en français, il y a certains modes de jeu qui sont totalement inaccessibles. Par exemple, dans le mode mission où ce sont des matchs à objectif qui se suivent, mm-hmm. et bah tu te retrouves sur un écran de chargement qui ne s'arrête jamais. Et si t'es dans le mode Fighting Road, à un moment je fais un combat, je rate l'objectif, le jeu me dit est-ce que vous voulez faire comme si vous aviez réussi l'objectif et donc continuer ou recommencer? Et là, j'ai essayé les deux. Tu te retrouves sur un écran de texte qui plante. En fait, t'as que la musique qui tourne, t'as aucun texte, t'as juste une photo et le jeu ne tourne plus. Et j'ai réessayé plusieurs fois. J'ai essayé en désinstallant le jeu, en réinstallant. La seule solution pour contourner ce problème à l'heure actuelle, c'est de passer ta PS4 en anglais. Il faut aller dans l'interface de la PS4, changer la langue de la console, et là, ensuite, ça fonctionne. Donc, que ce bug-là est toujours... Parce que ça ne doit pas être un bug incroyable, que ça n'ait toujours pas été corrigé. Peut-être c'est parce qu'il y a 4 personnes qui jouent au jeu en France.
Bah, oui, mais quand même, les 4 l'ont acheté. Donc, oui, mais...
Peut-être que rien n'a été rapporté à Spikesunsoft non plus.
Et peut-être que ça a fait ça aussi dans d'autres pays européens. Peut-être qu'en Espagne, ou en Italie, en Allemagne, peut-être que ça fait ça aussi. Bah si, parce qu'il y a des messages sur, des forums, il y a des trucs. C'est arrivé à plusieurs personnes, donc le bug existe bel et bien. Bah, moi, je l'ai subi, mais ça n'a pas été corrigé, donc c'est un peu dommage.
Bon, bah, écoute. On surveillera en espérant que ce soit réparé bientôt. Maintenant, on va
super. Alors, je présente mes excuses à ceux qui n'en ont absolument rien à foutre du catch parce que j'imagine que cette dernière séquence a dû être absolument insupportable pour vous, mais bon.
Mais absolument pas. C'était très intéressant et ça m'a donné envie d'acheter Fire
aussi,
Pro personnellement.
Plutôt l'autre.
C'est vrai.
Ouais.
Bon, dis donc, t'as pas
battu vous.
on va maintenant passer à l'anniversaire de la semaine. On va en faire un, je pense, mon cher Thomas. On va faire. Le deuxième que tu as écrit sur ce papier.
Ah non, on va très vite faire le premier. Vraiment
alors très très vite.
Vraiment,
hein, vraiment,
très, vite.
Très,
non, mais
très,
vraiment
vite
très vite en une
parce
minute.
Parce qu'on est quelques-uns à pas comprendre ici.
Parce que oui, mais c'est son anniversaire. Vous pouvez le respecter un petit peu.
Bah,
en l'occurrence, c'était il y a 20 ans. Turok 2 Seeds of Evil sortait. Hop, désolé pour la ceinture. Voilà. Je voulais ramener la boîte qui fait un petit peu la gueule à l'époque.
Pas le 1
moi, j'ai le 1 et j'aurais pu en parler.
Parce que c'est le 2 qui est sorti il y a 20 ans. T'abuses.
Ça l'a compris, mais pourquoi
le 2 avec sa cartouche noire, assez stylée, qui profitait en plus du. Mais non, c'était pas une dope, c'était tellement mieux que le premier.
Attends, la boîte est en peau de serpent un peu.
Le 2, j'y ai joué.
Il y avait un effet sur la boîte.
J'ai détesté le deuxième.
Ah non, moi je l'avais adoré le deuxième, avec un mode histoire qui était beaucoup plus développé, avec des cutscenes, avec des missions, et surtout avec un truc incroyable à l'époque, c'était une localisation des dégâts absolument fabuleuse, puisque les ennemis les plus imposants pouvaient perdre un bras pour peu que vous visiez juste, ou avoir un énorme trou dans le bide, la tête explosée. Il y avait cette arme aussi, rappelez vous qui détectez les ennemis intelligents et qui allez se loger dans leur crâne pour leur sucer la cervelle et l'éjecter devant vos yeux. Il y avait plein de trucs très sympas et surtout pour un jeu de 64 il était incroyablement beau.
Bah là Poufy passe des images de la version remasterisée, hein. Sur N64 c'était pas net comme ça,
il y avait du brouillard, c'était pas lisse, etc. Mais moi c'est un jeu qui m'a occupé mais tellement longtemps, et comme j'ai un cerveau qui est très bizarrement fait, je me souviens encore par cœur du code ultime pour tout débloquer, toutes les armes, toutes les clés, aller au dernier boss, etc. Et putain, tu as des phases en Triceratops dès le deuxième monde où tu défonces tout.
Mais c'est vrai, t'as raison, en fait c'était le meilleur, hein.
Voilà. Et il y avait en plus un mode multijoueur qui était pas incroyable non plus, mais qui avait le mérite d'être là, et évidemment des boss toujours
mais
aussi gigantesques.
Fait, si, je sais pourquoi, c'est parce qu'on a joué à Turok 1, on était fou, et puis après on a joué à GoldenEye, puis et après il y a Turok 2 qui
mais c'était pas la même chose.
Et ouais, c'était pas la même chose,
c'était pas le même type de jeu, mais en tout cas voilà, Turok 2 est sorti il y a 20 ans, puisque c'était
le 21 octobre
1998.
Et ouais, déjà. Mais l'anniversaire le plus important de la semaine, évidemment.
C'était 10 ans avant.
Ouais, oui, et c'était
10 ans avant, le 23 octobre 1988.
Alors, et ce ne sont pas les jeunes gens que vous voyez, si vous êtes premium, hein, qui sont en train de chanter, moi, évidemment.
Je pense que l'unanimité sera totale pour vous parler de Super Mario Bros. 3. Ouais, que... Oui. Voici sur NES un épisode absolument incroyable qui a défini le jeu de plateforme 2D pendant très très longtemps et qui est toujours considéré par certains comme le plus grand jeu de plateforme 2D de l'histoire.
J'aime bien le 2 aussi, mais...
Le 2 USA.
Ouais, non, le 2...
Parce que là, le 2... USA, celui qu'on a eu chez nous.
Ouais, voilà.
Parce que là, il faut se rendre compte qu'au Japon, quand Super Mario Bros. 3 débarque, le 2, c'était une amélioration du premier Super Mario Bros. Et là, on passe à quelque chose d'incroyablement beau, avec une world map sur laquelle on se déplace, avec sur laquelle on rencontre partout. Des ennemis, des secrets partout, dès le premier monde, puisqu'on vient de voir le fameux bloc blanc
qui permet
de passer derrière le tanuki.
La grenouille, si je me...
Le monde géant, moi, c'était le monde 7, je crois.
Oui, hyper impressionnant. Ouais. Vous avez ce petit clin d'œil aussi, puisque dans l'un des mondes, vous pouvez vous déplacer sur la world map, prendre un bateau, partir, découvrir des mondes cachés, et à un moment donné, il y a un petit bout de terre qui ressemble fortement au Japon, et le château qui est situé dessus, il est où ? Il est à Tokyo, évidemment, puisque c'était... c'est toujours d'ailleurs l'emplacement des locaux de Nintendo.
Tokyo était magique.
Kyoto.
Ouais, j'avais compris que Tokyo. Je me disais, non, Nintendo, ils sont pas à Tokyo. J'avais mal entendu.
Tellement de moments incroyables sur Super Mario Bros. 3.
À faire et à refaire.
Avoir réussi à caler ça sur NES, c'était vraiment magistral.
Puis précurseur de Super Mario World par bien des aspects aussi.
Super Mario World lui a emprunté énormément de choses. Exactement. Et en plus, nous, on le découvre beaucoup plus tard, parce que là, on est en 88. Chez nous, il sort très très tard.
Moi, j'ai un souvenir de l'avoir eu Day One, quoi, tu vois, ce jeu-là. J'avais 4 ans en 88, non, mais j'avais pas encore de NES.
Mario Bros. Est sorti plus tard. La NES est sortie plus tard chez nous, de toute façon. Et c'est vrai que pour les Japonais, le gap était encore plus impressionnant, parce qu'il passait de Super Mario Bros 2, qui était finalement la même chose que le premier, avec des nouveaux niveaux, parce que celui que nous on a connu sous le nom de Super Mario Bros 2 est sorti après Super Mario Bros 3 au Japon sous le nom de Super Mario Bros USA.
Absolument.
Je crois qu'il est même sorti alors que la Super NES était déjà dispo au Japon, donc tu vois,
parce que c'est peut-être 91
ou un truc comme ça, de toute façon,
trouverez là-dessus une très bonne leçon d'histoire sur Gameblog que je vous ai fait pendant un super rétro. Je me rappelle plus, parce que ça a 2 ans maintenant, mais j'avais bossé tous les détails de cette petite histoire, tous les tenants, les aboutissants. Le super rétro sur Game Boy.
Il y a un trivia aussi sur Super Mario Bros 2. Enfin bref, là on parle du 3. Et l'anecdote la plus géniale que je trouve sur Super Mario Bros 3, c'est qu'en fait c'est une pièce de théâtre.
Oui, c'est vrai, à la fin on découvre c'était...
En fait, il y a plein de détails tout au long du jeu. Le rideau, et à la fin du niveau, tu sors du décor, en fait, tu vas dans les coulisses. Et la théorie a été confirmée par Miyamoto. Hein. C'est bel et bien une pièce de théâtre, en fait.
C'est une véritable attention aux détails.
Ouais, dans le 2, Mario dort, en fait. Toute l'aventure, c'est un rêve. Et dans le 3, c'est une pièce de théâtre. Donc ça se trouve, en fait, un jour, on va découvrir que Mario, c'est pas du tout un aventurier, c'est un gros mythomane. Rien ne lui est jamais arrivé.
Qui passe son temps à dormir.
Et que le véritable héroïne du royaume champignon, c'est Bowsette, tout simplement.
Tout simplement.
Donc bon, si vous l'avez jamais fait, ou même si vous avez envie de le refaire, il est dispo sur tellement de plateformes. Il est dispo sur grâce au Nintendo Switch Online, il est dispo sur NES Mini. Et en plus, il a aussi beaucoup d'importance dans une discipline un peu particulière du jeu vidéo, qui est le Tool Assisted Speedrun, parce que ça a été un des premiers TAS
11 minutes, c'est
hyper impressionnant. 8 ou 11 minutes, je ne sais plus, avec 100 vies au compteur à la fin. Je ne sais pas si la vidéo est encore trouvable, parce que le record a dû être battu tellement de fois depuis, mais c'était pour l'époque hyper impressionnant. Donc voilà, un incroyable jeu, toujours 30 ans après, il mérite encore que vous y passiez quelques heures, surtout qu'avec les outils actuels.
Il est nickel.
Les outils actuels vous permettent de sauvegarder et de peut-être moins rager qu'à l'époque.
Mais je crois que c'est une version US.
Ce qui était aussi quand même très très dur. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du monde 7 avec tous les niveaux de Bowser. Le monde dans la lave où tu avais les bateaux volants, les défilés de chars, etc.
Les bateaux volants, c'était le pire.
Le nombre de fois où ça se compte sur les doigts d'une main. Sur les doigts des mains, clairement.
Si vous voulez une version plus facile, vous prenez dans la version All Stars, c'est bien plus accessible.
Ou sinon sur les consoles actuelles qui te permettent de sauvegarder,
de faire des quick save.
Rien que ça, ça change la vie, vraiment.
Bah voilà, 30 ans, joyeux anniversaire,
Mario Bros 3.
Et tu Rogue 2 aussi.
Voilà. Un petit peu aussi, tu Rogue 2. Évidemment, on finit évidemment cette émission par le hors-jeu de la semaine. Et une fois n'est pas coutume, c'est Johnny One qui va nous faire le hors-jeu, qui va nous parler de figurines. Figurines de quoi ?
De Nier.
De Nier. Nier, le premier Nier ou Nier Automata,
Les figurines qu'on peut montrer déjà, c'est pas mal de la part de Johnny.
De quelle figurine veux-tu nous parler exactement dans Nier Automata?
On peut voir déjà sur le petit plateau là, qu'on a vu là. Par exemple,
bouge pas, Plumeau.
Ah, tu vas faire la démonstration. Magnifique. Donc, vous voyez, on a par exemple la première que Thomas va vous montrer. Ça, c'était celle qu'on pouvait trouver dans le collector, Black Box Edition. Donc, qui était une toute petite figurine avec une qualité pas terrible en fait, hein, en vrai, au final. Hein. Mm. Et puis, ça faisait un peu râler de payer sa Black Box 200 euros presque pour se retrouver avec. Ah non, là ça c'est le secret, ça, trophée déverrouillé. Voilà. Tiens, regarde, tu vois, tu peux montrer aussi que en fait cette gamme là elle continue. C'est-à-dire, si vous avez acheté votre collector, elle continue. Il y a des A2, il y a des 9S. Enfin, il y a pas mal de persos qui sortent, mais bon, limite, c'est pas trop ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'on va enchaîner sur une espèce de deuxième gamme de figurines qui est sortie. Avec Nier Automata, c'est celle que tu as, tiens, regarde tout là-bas. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des Bring Arts. Bring Arts, qu'est-ce que c'est? C'est les Play Arts en fait, c'est la suite de la gamme Play Arts. Ouais, avec le petit pod. Mm. Il n'a pas le skin PlayStation malheureusement quand tu achètes la figurine. Ouais. Donc, ça en fait, c'est de la Play Arts. Play Arts, c'est les figurines Square Enix qu'on trouvait il y a quelques années chez Micromania à 30 euros qui maintenant sont vendues 150 euros. On sait pas trop pourquoi.
Bah, peut-être parce que c'est de la bonne qualité.
Ah non, il n'y a pas eu de gap de qualité du tout.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est de la merde. Oh, clairement, pour ce que c'est vendu, c'est de la merde. Voilà, bon.
Bah, voilà, en fait, c'est juste pour dire que c'est dégueulasse. Donc, en fait, on a fait ça.
C'est dégueulasse, voilà, exactement. Non, et là en fait, en vrai, pourquoi est-ce que je suis content? Mais pourquoi est-ce que je vais vous en parler? C'est parce qu'on a une vraie figurine qui va sortir. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous a montré là, c'est du pipi de chat en fait pour l'instant. Là, ces figurines là, celles du collector, c'est trop petit, les playarts c'est articulé et c'est moche. Et là on a une vraie figurine qui va sortir. Alors c'est chez un fabricant qui s'appelle Flair. Et elle est tout simplement magnifique, hein. Je sais pas si vous voyez les images.
Ah, pour les premiums, ouais, je pense qu'ils doivent
voir les
doivent
images. Donc là on la voit sans son masque.
Elle a ce visage là, Toubi.
Ouais, le sculpte est tout simplement sublime. En fait c'est un sculpteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Reflect. Et en fait du coup tu vas avoir cette figurine là. Donc t'as deux versions, t'as la version de base où elle a son masque sur la tête et c'est tout, basta. Uh-huh. Et ils te vendent une deuxième version où tu auras le pod, tu pourras lui changer de visage et tu pourras aussi lui changer ses fringues. Et ça, elle est tout simplement sublime. C'est une
vrai.
Vraie
figurine. Elle est déjà en précommande ou pas?
Ouais, c'est déjà en précommande. On avait fait une news là-dessus sur Gameblog, faudra le rechercher un petit peu, chercher tout.
Très bien, on va peut-être retrouver le titre de la news puisque Poufy l'a sous le nez, donc logiquement il devrait pouvoir savoir
cette tenue de combat. Quand même.
Ah bah ça.
Non mais ça c'est pas la vraie tenue. Ça c'est pas la vraie tenue de combat. Ça c'est une des. Là ce que vous voyez là c'est une des parts optionnelles parce que comme je disais il y a deux versions, version deluxe et version simple. Et ça pour changer le costume c'est version deluxe. Voilà. Et pour avoir le pod aussi avec et changer le visage. Voilà. Donc d'accord. On a une vraie figurine
je
de.
Partirait bien à l'aventure.
Magnifique. qui va sortir, voilà. Donc, okay. On voulait en parler pendant
donc,
ce
le titre
enjeu.
De la news, Poufy, toi qui es dedans et qui voit les images, est-ce que tu penses
c'est
que tu peux nous le.
To be de retour. To be revient en figurine.
Les images et toutes les infos. Voilà. Dans cette news publiée le 9 octobre 2018 à 16h30 exactement, dans laquelle Traz a peut-être rajouté un petit peu quelque chose. Je ne sais pas. Alors, c'est cela, la vie actuelle est intense. Non, voilà, c'est.
Non, nous n'avons pas.
Non,
par
ça,
contre,
c'est
pas d'infos
moi,
quant à
fin.
Une éventuelle sortie du jeu Switch.
Non, c'est ma vanne à la fin, je suis désolé, c'est pas Traz.
Donc voilà pour cette figurine Nier Automata qui s'annonce magnifique.
Ça sort en septembre 2019. Hein, donc
ah oui, donc on
a le temps de voir venir.
On peut précommander.
Ouais,
en général, c'est ça avec les figurines haut de gamme.
Un an de précommande, ouais.
T'as un petit peu de temps avant qu'elles arrivent. Bah merci pour ce rappel concernant cette figurine. Et ainsi va l'actualité de la semaine, messieurs, dames, puisque c'est maintenant que s'achève ce podcast 471 de la rédaction. On va évidemment remercier Thomas,
mais
Romain, Johnny qui étaient
donc. À toi.
Tous chauds comme la braise. Poufy aussi, le breakdancer à la sono qui est en train de se marrer du haut de son engine. Et puis on va vous remercier, vous, comme d'habitude, de nous suivre avec fidélité. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. Peut-être cette fois avec un Julot de retour, je ne sais plus.
Ouais,
il est de retour.
Là, je crois qu'il est parti deux semaines. Là, non
oh, le bâtard.
Ah oui, on vous le revoyait pas avant un petit moment, hein, Julot. Ouais.
Bon, alors pas de Julot la semaine prochaine. Je sais
pas. Pas de Romain non plus.
Oh, alors pas de Romain. Donc tu pars aussi, non? Parce que.
Oh, peut-être du coup si tu me le proposes comme ça. Moi,
moi
je suis jamais rétif
pas,
à prendre des vacances,
là,
tu sais.
Limite,
donc
autant qu'on comprenne tous ensemble.
À la limite, si je peux me glisser dans les valises de Romain et puis partir à l'aéroport.
C'est vrai ça.
serait pas mal ça.
Ah ouais, carrément, hein.
Bon,
bah déjà que j'ai dit à ma femme qu'on allait pas prendre notre bébé mais qu'on allait prendre Traz à la place parce qu'il est jamais, il a jamais été au Japon. Alors si en plus on t'amène toi, tiens, mais...
Traz a jamais été au Japon?
Non,
il s'est dit la semaine cette semaine. Ouais, mais si t'avais été là hein, plutôt que de jouer à tout et n'importe quoi,
ta fille va aller au Japon avant moi.
Bah alors ça,
ouais. Même quand je l'ai dit à ma femme hier, elle a fait ah ouais. Bah c'est vrai, quand t'es
elle
dans la
Nani.
Quand t'es dans la Nani, quand t'es dans la presse jeux vidéo depuis si longtemps, ne jamais avoir mis les pieds au Japon, c'est...
Bah je suis surpris,
surtout
très surpris.
Il a connu la grande époque où il y avait l'opulence.
Ouais, bah écoutez, je propose que
fasse tout pour Traz qui partira à ma place finalement. Je vais rester ici.
On fasse tout pour que Traz parte au Japon un jour.
Mais faudra
filmer. Ça sera notre objectif.
Franchement, filmer les aventures de Traz au Japon, je pense qu'il y a moyen que ça soit un truc génialissime.
Bah je pense que ça dépasserait le truc, tu sais, avec Magloire et Vincent Magnum.
Faire une télé-réalité.
Ou là, tu fais une télé-réalité de Traz au Japon, je pense que.
J'imagine déjà le truc. Je pense que ça serait fantastique, vraiment.
Bon, ce qui sera fantastique, ce sera de vous retrouver la semaine prochaine, évidemment, pour un autre podcast. D'ici là, on espère que vous allez vous porter bien, que vous allez bien jouer. À la semaine prochaine.
Ciao.
Sayonara.